Ah, on pourrait faire un concours de cris de chèvre, un peu. Oh, ok, ok, très bien.
Et la meilleure biquette de l'année, Juanito.
J'ai ce machin.
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries.
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Ce qu'il dit.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi, pour cette rentrée, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan.
Salut, je suis là pour cette rentrée.
Hicham.
Coucou.
Et Camille.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Ah, la team est réunie. Ça fait longtemps, ça me fait très plaisir.
Ouais.
Bah oui,
j'ai oublié comment est-ce que ça marchait, des micros et tout.
Bon, suffit de parler, globalement.
Ah oui, c'est vrai.
Ça se passe plutôt bien. Mais oui, vous m'avez manqué aussi, même si on s'est revu un peu, mais pas tant que ça.
Bah non.
Honte à vous. Parce que certains sont partis par-delà les océans, comme je l'ai dit dernièrement. Mais c'est très plaisir, en tout cas. Voilà. On a repris voilà, cette saison après une petite pause. On va balancer des petits best-of. On va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé cet été parce qu'on est très contents. On a fêté ça avec une petite coupe de champagne dernièrement.
Faisons ça.
Voilà. Non, mais on a eu un été très cool. On est très contents. On a eu un petit, une petite recommandation dans 20 minutes. On a été mis en avant sur iTunes. C'est toujours le cas pour l'instant, mais on verra plus tard. On a dépassé les 50 000 écoutes mensuelles. Enfin, on est très, très heureux.
Donc vrai. Voilà, c'est vrai que ça fait plaisir.
Ben ouais, on est plutôt à la fête et puis et on prépare d'autres choses de fête, on vous en dira bientôt peut-être plus.
Ou pas.
Voilà, ou pas. Non mais en toute logique, oui. On devrait pouvoir se revoir d'ici la fin de l'année.
Et ça y est, nous commençons à avoir des gens désagréables.
Oui, enfin
bienvenue à
on
vous.
On a nos rageux.
Puisque vous êtes nombreux,
si vous voulez voir nos commentaires iTunes, profitez-en pour laisser un message, mais vous pourrez voir quelques personnes qui ne sont pas contentes et
c'est leur droit d'ailleurs.
Mais on
voilà,
les salue.
Voilà, grand bien leur en face. Voilà. Sur ce, ne parlerait-on pas du programme que ces personnes mécontentes
oui.
N'écouteront pas puisqu'elles ne nous écoutent plus maintenant.
Oui.
On va commencer par
moi.
Hicham.
Oui. Alors avec le retour des vacances, je vais vous raconter l'histoire d'un des plus beaux et des plus rapides des avions commerciaux. C'est le Concorde.
Allez.
Ah, c'est surtout son vécu commercial qui était rapide, non ?
Pas si rapide
pas
que
si
ça.
Pas si rapide que ça. C'est
tu vas voir. Ah, tu vas voir.
Ouais,
alors. Okay, hâte de voir ça. Après, bah, du coup, ça sera Juan.
Oui.
Et
on va se demander pourquoi.
Ah, mais pourquoi, mais
pourquoi,
ah, pourquoi
ah, bah, vous verrez.
Ah.
Fort bien. Après, il me semble que ce sera ma personne.
Ce sera tout à fait toi, chef.
Ma personne plutôt personnelle. Je vais parler des lanceurs d'alerte. Un sujet que j'ai préparé depuis un petit moment. Et là, il tombe bah, pile de bonne aloi. Puisque l'actualité veut que ça tombe bien.
Le père Snowden.
Voilà.
Si tu ne dis pas l'actu, les gens ne savent pas.
Mais parce que je la dirai dans le sujet, mais voilà, Edward Snowden va sortir ses mémoires. Je me suis dit, c'était l'occasion de sortir ce sujet sur les lanceurs d'alerte.
Yes.
Non, voilà. C'est une bonne idée.
Et après, ce sera Camille.
Tout à fait. Et moi, désolé, chouchou, mais je vais faire une chronique animalière.
Ah, c'est un switch, mon Dieu.
Je t'ai donné mon.
T'es laissé, c'est le passif de Thalassa.
Pas facile. Tu as le droit.
Tu es bien aimable. Donc voilà, je vais parler d'un animal.
Ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré. Il faudra pas nous en vouloir si on parle mal.
Oui. Oui. Bon, du coup, alors, un animal, mais lequel ?
Le dingo.
Ah. Parce que. Alors, est-ce que tu peux raconter un tout petit peu ta vie ?
Oui, bah parce que je rentre d'Australie.
Ah, mais voilà.
Voilà, voilà.
Où tu as vécu des folles aventures que tu nous raconteras pas du coup dans ce sujet. J'ai...
Bah non, je ferai un jour un sujet spécial sur l'histoire de ma vie, mais pas.
Ce sera
un
pourquoi quoi.
C'est exactement ça. Pourquoi.
Faire quoi.
Pourquoi la Franche-Comté.
La sympathie.
Bon, et est-ce qu'on partirait pas sur le Concorde du coup.
C'est parti.
Fire.
Allez.
J'ai construit un module le plus rapide qu'il y ait jamais eu.
Dépêchez-vous, les réservoirs sont en feu. L'avion va exploser.
Oh, ah. Dommage. Coupant comme une lame, rapide comme l'éclair.
C'est parfait.
Ladies and gentlemen, this is your captain Ishouchou speaking again. I hope que tout va bien à bord, que you are very at ease, and que vous avez passé de wonderful vacation. Pour notre journée today, nous allons going to go very very rapidement. Alors do not forget your ceinture, et inshallah, we will not going to avoir any turbulence during this chronique. On behalf of Pardon Maman Airlines, je vous souhaite une magnifique chronique.
Eh oui, le capitaine Chouchou va vous embarquer à bord d'un chef-d'œuvre de la technologie, que ça soit à l'époque ou aujourd'hui. Eh oui, et il était même plus rapide que les avions militaires de l'époque. Alors, je dis bien de l'époque parce que, petite anecdote, en faisant mon sujet, j'avais juste mis avion militaire tout court. Puis après, je me suis quand même renseigné. Et en 2014, le Boeing X-51 a battu le record avec une vitesse de 11 000 km par heure.
Wow.
5 fois la vitesse du Concorde.
Mais c'est wow. Oh, ok, 5 fois, ouais, ok, ouais. Pas mal.
Donc, j'ai changé ma phrase.
C'est rapide pour aller en Polynésie, ça, quand même.
Ah,
pourquoi
oui.
Ils mettent pas ça, par exemple.
Oui, oui, oui.
Mais qu'est-ce que tu peux avoir de si pressé à faire pour aller aussi vite ?
La guerre.
Du coup, je rappelle ta question.
Excusez-moi, je crois que vous avez été mouché.
Non, c'est pas bien, la guerre.
Bref, allez, reprenons l'histoire depuis le tout début.
Revenons à nos mamies.
Novembre 1962. Deux pays ont mis leurs différences et leur haine historique de côté pour élaborer un plan unique qui allait révolutionner l'aviation des 40 années suivantes. Donc, la France et la Grande-Bretagne veulent réaliser quelque chose qui était un rêve pour beaucoup de personnes, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale. Un avion supersonique commercial. Encore une fois, je précise commercial parce que les Allemands avaient déjà fabriqué en premier le premier avion à réaction en 1941, le, préparez-vous, Messerschmitt ME-262 qui roulait à Mach qui volait à Mach 0,71, soit 871,708 km par heure propre.
Bon, depuis Gillette a fait les Mach 4, donc impressionne moins. Pardon, merci.
Pas ouf.
et aussi en 1947, les Américains ont réussi pour la première fois à dépasser la vitesse du son, donc Mach 1 s'appelle comme ça, c'est l'unité, et c'est 1234,8 km par heure. Et c'était avec leur avion Bell X-1. Et depuis, c'était une putain de course mondiale pour construire le premier avion supersonique commercial.
Supersonique, c'est qui va plus vite que la vitesse du son.
C'est ça.
Une course mondiale, genre tout le monde a essayé de le
vraiment, et tu vas le voir tout à l'heure. C'était un énorme pari qui, si ça fonctionnait, bah, ils pouvaient faire gagner des milliards sur le marché. C'est pareil, surtout qu'en sortant de la guerre. Donc les Anglais avaient déjà la forme en tête dans les années 50. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est quasiment la même que celle qu'aura le Concorde plus tard. Le seul souci, c'est que le projet est estimé à 100 millions de pounds. Donc voilà, ça coûte cher. Mais attention, cocorico, les Français aussi avaient déjà beaucoup d'idées en tête et aussi une forme qui ressemblait beaucoup. Donc pour une fois dans leur histoire commune de ces deux pays, au lieu de se rivaliser sur un projet commun, ils décident de travailler ensemble, de combiner leurs idées et de partager les frais. C'est pas beau ?
Oui, les Anglais ont enfin été moins bêtes que d'habitude.
C'est bien, ça apaise les tensions, ça.
Vous êtes Jean Gratos ?
Donc, au début, tout était beau, tout était mignon. On avait les idées, les ressources. Tout le monde se disait qu'en 5 ans, le premier vol commercial du Concorde verra le jour. Mais bon. L'histoire d'amour entre l'Angleterre, le UK et la France n'était pas qu'une petite façade. Les politiciens français et britanniques ne se faisaient pas du tout confiance et du coup ils se sont mis d'accord que si un des deux partis se casse du projet, bah, il sera dans l'obligation de payer la totalité du projet restant.
Ah oui.
Voilà.
Entendu.
Mais bon, ils faisaient quand même des efforts parce qu'ils allaient être amenés à bosser ensemble. Il y avait des cours particuliers d'anglais et de français qui étaient mis à leur disposition, histoire de dire un peu plus que « My Taylor is rich ». Donc, malgré le fait qu'ils bossaient ensemble et tout, il y avait tout de même cette rivalité, mais c'est une bonne rivalité. Donc, c'était les ingénieurs. Ça leur permettait de bosser plus... Voilà, c'était une compétition saine, en fait. Voilà.
Très bien.
Et autant tout se passait bien avec les ingénieurs et tout, mais autant les politiciens se fâchent pour des conneries. Donc j'ai envie de dire la politique. Le Premier ministre britannique était très énervé.
Ça te dénonce ce soir.
Ah, moi j'ai envie de dire les princes de lui, tu vois.
Ah, ton stage à Mediapart, putain, ça t'a changé, quoi.
Le Premier ministre britannique, il était très énervé contre De Gaulle, parce que De Gaulle a ajouté comme ça un E à la fin de Concorde.
Puis déjà, il a squatté chez eux pendant un petit moment sans payer le loyer.
Oui, ça c'est vrai.
Pas cool.
Du coup, vu qu'il ne voulait pas ce E, bah, il l'a retiré. Mais De Gaulle, il n'en avait rien à battre, il l'a remis. Et les ingés, en fait, ils s'en foutaient royalement.
Ouais, plutôt.
Ils s'en battaient les couilles de comment est-ce qu'on allait écrire le mot. Sur un des documentaires que j'ai vu, il y avait un ingénieur qui disait « They can put even 10 E's if they want, I don't care. » As long as it flies.
En même temps, ouais. C'est...
Mais Concordie, ça fait beaucoup. Quoi.
Et goal.
C'est ça. Surtout, ce qui est drôle, c'est qu'on s'intéresse à l'origine du mot Concorde.
Ah.
C'est un nom féminin. union de cœur et de volonté entre des personnes.
Oui, alors que là, c'était plutôt pas l'ambiance.
Du tout, voilà. Bref, donc un an après l'accord entre les deux nations, le premier modèle de l'avion est présenté avec un prototype en bois pour le montrer au monde entier. Tout le monde était bluffé parce qu'en un an, pour tous, ils ont passé qu'une seule année pour présenter tout le boulot. Donc c'est vraiment incroyable. Et en voyant ça, tu as 16 compagnies aériennes qui commandent un total de 75 avions à 3 millions de pounds par avion.
Tout ça pour un prototype en bois ?
Ouais, bah c'est convaincant. Enfin, ils ont bien bossé et tout, ça part super vite.
C'est du beau bois. Hein.
Les maquettes en allumettes, ça a de la gueule quand même.
Pignon, François Pignon.
Et la majorité de ces compagnies, elles étaient américaines, ce qui a rendu ouf Kennedy. Je vous en avais parlé lors de l'épisode du B747. Mmh. Kennedy annonce que Boeing allait, lui, construire aussi un avion plus grand et plus puissant que le Concorde, le fameux SST. Je vous en avais parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà, c'est les ricains, toujours plus, toujours plus. Après, on peut les comprendre, c'était la guerre froide entre l'URSS, qui lui aussi avait en tête de fabriquer un avion supersonique et qui avait carrément des anciens ingénieurs nazis dans leur...
Ambiance ouais.
Il fallait bien qu'ils passent leur retraite quelque part.
Non, en prison.
Bref, maintenant que le Concorde a des vraies commandes, shit's getting serious. Les matériaux utilisés sont nouveaux, ils ont poussé la résistance des matériaux jusqu'au max. Et en plus de ça, il y avait deux fois plus de boulot parce qu'il fallait fabriquer deux avions, deux exemplaires. Un pour le prototype français et un pour le britannique.
Ah ouais, d'accord.
Ça aurait été plus simple d'en faire un.
Je suis d'accord avec toi, mais...
À l'époque, ils n'étaient pas d'accord.
Non.
Okay.
Donc voilà, ça coûte très, 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 très cher. Et c'est pas n'importe quel boulot, parce que l'objectif du Concorde, c'est pas juste de dépasser la vitesse du son, donc Mach 1, comme je l'ai dit.
C'est de le faire avec des gens dedans qui restent en vie. Et ouais.
C'est
le faire avec des gens dedans et qui restent en vie.
Aussi, mais c'est surtout d'y aller deux fois la vitesse du son, donc Mach 2,2, soit 2470 km par heure. Donc il y avait un travail de ouf sur les ailes pendant des mois et des mois pour perfectionner sa forme.
Il n'a pas d'ailes, le Concorde ?
Si.
Non, mais c'est pas vraiment des ailes, il est triangulaire.
Je te jure que si, sinon il tombe.
Et donc,
sinon,
non,
mais
c'est des ailes.
Oui, non, mais je veux dire, c'est pas des ailes totalement, enfin, tu sais, un peu détachées sur le côté, c'est un triangle qui vole.
T'es parti en Australie comment ?
En avion.
Je t'avoue que je suis pas ingénieur aéronautique, mais sinon.
Oui, mais justement, tu sais, quand j'ai atterri à Roissy, on est passé devant la maquette du Concorde, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez sympa, parce que je me faisais chier. Et il est triangulaire, en fait. Enfin, devant la maquette, non, devant le Concorde.
Je vois ce que
Concorde.
Tu veux dire.
C'est
oui,
vrai,
pas de petites barres sur les côtés.
Mais... elles sont collées, quoi, au cul.
Ouais, mais s'il n'y a pas d'ailes, ça s'appelle un bus, en fait.
Oui, non, mais...
D'accord. Non, c'est bien des ailes, Camille.
D'accord, ok, très bien. Autant pour moi.
Pas de souci. Les réacteurs aussi, c'était une innovation. Ils se sont inspirés des avions militaires. Ils ont quasiment tout changé. Pareil pour le nez pointu. Donc, vous visualisez tous le Concorde. Il était conçu pour des raisons aérodynamique.
Parce qu'il bouge, non, son nez.
Exactement. Et le problème, c'est que s'il était vraiment... oui, titre, Ilias. Non, pas du tout.
Je pense à Pinocchio.
Ah.
Et comment ça, il bouge son nez ? Enfin, j'imagine
si,
que tu vas expliquer.
Ouais.
En fait,
descendre,
donc, s'il est aussi pointu, c'est pour des raisons aérodynamiques, pour percer l'air plus rapidement que n'importe quel autre avion. Mais le problème, c'est que si il était statique, enfin, il bougeait pas, bah, le pilote, il voyait plus la piste.
Ah, bah oui, chiant.
Du coup, donc, t'as le nez
au
qui...
Feeling, non, sinon.
Hein
au feeling
oui,
sinon, il, caméra.
Il faisait au nez.
Ah oui
oh oh
Dis-moi mais... que tu ne l'avais pas noté.
Hein non, je ne l'ai pas noté.
Oui,
attends, je ne note pas tout, je suis un mec drôle
mais
aussi.
C'était meilleur
spontané.
Quand
il est ça. Bon à marier, quoi, fort. Finalement.
Donc, les pilotes, ils ne pouvaient donc pas voir la piste de décollage. La solution, c'était d'avoir un nez.
Des caméras.
Non.
Ou un nez qui bouge.
Voilà, qui se baisse et qui fait un peu une forme crochue. Et une fois en l'air, bah, le nez redevient super pointu. Et puis, tu avais même une sorte de coque qui venait sur les... pare-brise, si on veut dire, je sais pas. cache-nez, non. Sur les vitres pour que l'air se passe plus facilement. Okay. Ouais, c'était vraiment la technologie.
Ouais, parce qu'une fois en l'air, t'as pas trop besoin de voir autour de toi, quoi.
Non, non. Et pareil, pour gagner encore plus en aérodynamique, je sais pas si ça se dit, mais voilà, il y avait un composant qui sortait du nez au niveau de la vitre du cockpit pour qu'il ait encore moins d'emprise au vent.
Et c'est un matériau ouvert, réacteur de ventilation externe.
Quoi ?
De la morve.
Oh putain ! Waouh !
Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas écrite, ça, là ? Donc, pareil aussi, les hublots, c'était tout petit. Je ne sais pas si vous avez déjà... Non, j'ai jamais remarqué, vous n'avez jamais vu le prototype de...
Bah,
c'est, vraiment,
aussi, oui.
C'est vraiment tout petit, c'est deux fois plus petit qu'un hublot qu'on est aujourd'hui.
Ah oui, déjà, il n'est pas gros, d'ailleurs.
Ouais.
Non, c'est vrai qu'ils ont des tout petits hublots. Ouais.
Mmh. Ah ouais. Okay.
Donc, une fois le prototype fait, on se rend compte que le budget a explosé.
Évidemment.
Mais genre, vraiment.
Et pour l'instant, et pas que.
Mais genre...
Pardon.
Ah, oui.
Oui.
C'est notre histoire. Bien joué. C'est plus de 5 fois que prévu. 550 millions de pounds.
J'appelle ça la France, monsieur.
Et pas n'importe laquelle.
Surtout que les compagnies qui ont commandé un ou plusieurs Concorde, ils ne voulaient pas juste l'avion. C'était un avion de luxe. Donc, il ne fallait pas juste servir du thé ou du café et un sandwich au concombre. Non, ils voulaient, entre autres, du champagne.
Ça, je sais que tu l'as noté, ça.
Oui.
Parce que c'est du vécu, le sandwich au concombre.
Oui. Donc, ils voulaient du champagne, de la haute cuisine, ce qui rendait encore l'appareil encore plus lourd et donc adapter encore l'avion pour qu'il puisse voler, tout simplement. Et ce qui ajoute encore plus d'études et fera augmenter encore plus le budget.
Donc,
un moment...
Ça me scandalise.
Ouais. À un moment, 1966, les Britanniques ont hésité à abandonner ce projet pharaonique parce que voilà.
Mais ils auraient dû tout payer.
Mais voilà, l'accord disait que si un des deux pays se retire du projet, il fallait tout payer. Donc, au final, c'était pas bête comme idée.
Ils sont restés.
Et ils sont restés, bien sûr. Donc le projet continue. Et en 1967, le premier prototype, appelé le Concorde 001F-WTSS, est présenté à Toulouse.
Final, final 2, final définitif.
Il ne pouvait pas juste l'appeler Boris, en fait
Donc, t'aurais dû proposer.
Dommage.
Les images sont super drôles de la présentation, parce qu'ils ont ramené des hôtesses de l'air avec des casques de cosmonautes et tout. Parce que voilà, c'était le futur.
C'était pas les Daft Punk qui faisaient le prendre.
Non, c'était horrible, mais c'était drôle. Bref, donc toutes les caméras étaient fixées sur cet avion, mais aussi sur André Turca et Brian Trubshaw. C'est les deux pilotes qui allaient conduire piloter.
Un français et un anglais, j'imagine.
Un français et un anglais qui, tous les deux, étaient pilotes militaires pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oh. Ouh, pas tout jeune.
Bah, si, là, t'es.
On était en 67.
Ah,
20 ans après, pardon.
Et donc. Le 2 mars 1969, donc 7 ans après la décision de construire le Concorde, et après 4 ans de construction, c'est à Toulouse, donc le côté français se lance en premier avec le vol du Concorde 001. Suivi du vol britannique le 9 avril avec le vol Concorde 002. Les deux se passent très très bien, et rappelez-vous, pour le B747, une fois que l'avion peut voler, qu'est-ce qui se passe après?
Il doit atterrir.
Aussi.
Ils le vendent, ils le font en série.
Et ils font une série de tests hardcore. Bien joué, chouchou. Donc ils font des tests sur. Bah, ils font. Tu te rappelles pas pour le Boeing, ils avaient balancé des poules sur le.
Par contre, certes, j'avais oublié, mais je trouve ça bizarre qu'ils fassent pas les tests avant le vol. Mais
non, parce que même pour les tests, il y a rien. Et c'est vraiment les réacteurs, la cabine de pilotage, et c'est tout ce qu'il y a.
Ah, ok.
Il y a pas.
C'est vraiment genre, est-ce que ça le fait?
C'est ça. Ouais. C'est est-ce que déjà ça fonctionne? Et voilà, il démarre la voiture. Est-ce que le moteur fonctionne? Est-ce que elle roule? Et puis après, on va voir pour tout le reste, tout simplement. Donc, ils font des tests sur les ailes, les trains d'atterrissage, tout ça. Et la route était encore très très longue avant le premier vol officiel. Déjà, un des plus gros problèmes du Concorde, c'est le réacteur qui fume énormément.
Ouais, en plus c'est pas bon pour la santé, c'est l'enfer.
Non. Mais vraiment, enfin, j'avais regardé des vidéos de l'époque, t'as vraiment une fumée noire derrière. C'est ouf. L'autre gros problème, c'est le bruit quand l'avion dépasse le mur du son. C'est un peu ça. On pouvait entendre deux gros booms à chaque son. Comme la dame dit, c'est impressionnant.
On entend Michelin. Ouais.
C'est
impressionnant.
Ouais.
Non, mais c'est un truc de ouf.
Ouais, non, c'est...
Mais pour les gens qui sont dedans, ils ont plus de tympan?
Non, ils entendent absolument rien. Mais
du coup, on peut le remettre.
Si tu veux, allez.
C'est impressionnant.
Génial.
Bon, je vais faire une toute petite parenthèse. Pourquoi est-ce qu'on dit dépasser le mur du son? À votre avis.
Parce que ça fait comme un impact.
Ouais.
Parce qu'à partir du moment où on va plus vite que le son, il y a une compression, décompression, je ne sais rien.
T'es pas très très loin. Donc quand on se déplace en dessous de la vitesse du son, le son se propage vers l'avant en général. C'est ce qu'on appelle l'écoulement subsonique. Si on se déplace à la même vitesse que le son, enfin la vitesse du son, le son se concentre à l'avant et donc au même point. Mmh. On appelle ce phénomène l'écoulement sonique. Et si on se déplace plus vite que la vitesse du son,
on se prend le son dans la gueule.
Les ondes de son ne peuvent pas se déplacer vers l'avant, donc elles restent vers l'arrière, ce qui crée un écoulement supersonique. Et les ondes forment un cône à l'arrière qui est appelé le cône de Mach. Donc le Mach, comme je vous avais dit, c'est l'unité qui mesure la vitesse du son.
Ah, mais c'est pour ça que c'est
un parapluie blanc là que t'as quand tu.
Un parapluie blanc.
Oui.
Et si vous voyez un avion qui dépasse la vitesse du son, vous remarquerez qu'il y a
un parapluie blanc.
J'ai pas compris.
Mais ça fait un espèce de dôme blanc devant là.
Oui, voilà. C'est donc tu vois un nuage ou un parapluie qui se forme à l'endroit où il y a le plus de bruit, donc au niveau des réacteurs. Et donc, si on appelle ça le mur du son, c'est parce qu'au début, il y a plein de personnes qui ont essayé de franchir.
Ah, qui se le sont pris dans
la
gueule.
Et ils se prennent.
Oh,
voilà.
Dur, putain.
Et du coup, ils sont murus.
Oui, un peu, ouais.
Voilà.
Ah oui, t'en meurs.
Ah bah.
Bah, quand tu réussis pas, oui, tu meurs.
Ah oui. Non, mais je sais pas, tu sais, moi je.
Embêtant.
Okay. Vous connaissez mon niveau en science. Hein,
non, mais c'est pas juste. C'est pas, je te parle pas en science, c'est juste quand t'essayes de faire un truc qui à la base est impossible et qui est dangereux.
Mais en quoi c'est dangereux?
Bah, ça va vite, tu perds la stabilité, tu meurs.
D'accord. Ouais, non, mais je te crois tout à fait.
Voilà,
hein,
tout simplement.
D'accord, très bien.
Ton explication, je te la résume, c'était ta gueule, c'est magique.
Oui, non, mais je n'en doute pas. Très bien.
En 1972. Le Concorde n'était toujours pas habilité à voler.
Ça fait 10 ans, mais quand même.
Exactement. Et le coût du projet a dépassé le milliard de pounds.
Ah, oh, shit. Donc ça fait 10 fois.
Ouais. Ça fait cher le bus, ouais.
Pour essayer d'amortir le prix, la solution qu'ils ont trouvé de faire, c'est de passer plus de commandes aux compagnies aériennes. Comment est-ce qu'ils ont fait? Du coup, les dirigeants du Concorde avaient prévu de faire un Londres-Sydney en passant par plein de villes, dont Téhéran, Bahreïn, Singapour, Tokyo, etc. Mais au lieu de vendre des avions...
Attends, Londres-Sydney en passant par Singapour,
oui,
Téhéran.
Ils font des petits stops pour présenter l'avion, tout simplement. Genre, ouais. Ils passent à Téhéran, ils ont montré l'avion au chat qui a dit « Ah, j'en prends deux
!» Très bel accent que nous passerons. Très bien.
Mais ce qui est drôle, encore plus drôle que ma blague, c'est qu'au lieu de vendre des avions, il s'est passé tout l'inverse. Donc,
ils ont perdu
des commandes.
Donc,
la fumée a fait peur à Tokyo, donc ils ont annulé leur commande de 3 avions.
Évidemment, en avoir pour leur compte niveau fumée. Donc bon. Pardon. Désolé.
En arrivant en Australie, le bruit a fait peur aux habitants, donc surtout aux plus pauvres qui se disaient qu'ils ne pourront jamais se payer un billet. Et pareil pour les Indiens, ils refusent carrément au Concorde de passer au-dessus de leur zone aérienne parce qu'ils n'avaient pas de raison qu'ils souffrent alors qu'ils n'avaient même pas prévu d'en acheter tout court.
Putain, la vache.
Donc le Concorde revient avec plus de doutes que de soulagement au final. Ouais. Et en plus, de l'autre côté de l'Atlantique, Boeing galère de ouf avec le SST. Donc le SST, je vous l'avais dit, c'est le Boeing Supersonic et SST veut dire Supersonic Traveler. Parce que, donc ouais, ils galèrent de ouf parce qu'il était méga complexe. Ils avaient prévu 2 ailes déployables de chaque côté. Mmh. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Ça coûtait super cher. Et en plus de ça, les États-Unis étaient en guerre au Vietnam. Ils finançaient déjà leur programme d'Apollo. Donc voilà, il n'y a plus de thunes.
Ouais, donc, beaucoup de choses à gérer en même temps.
Ils avaient aussi dépensé plus d'un milliard de dollars sur ce projet. Mais eux, ils avaient zéro prototype. Même pas en bois, tu vois. Et donc, ils n'ont rien à montrer. Donc, le projet était tombé à l'eau. Et les Russes, eux, ils sont sortis beaucoup mieux avec leur avion qui s'appelle...
Oui, je l'ai.
Vas-y. Ah.
C'est pas... Attends. C'est genre Concorde en russe, mais débile.
Oui, Concordski.
Concordski.
C'est vraiment un gros wad.
Donc, c'est vraiment un copier. Et en plus, c'est un copier-coller du Concorde, même la forme, le nom, tout.
Le Concorde Beetle.
Donc c'était vraiment, c'est l'espionnage industriel à son plus haut niveau. Il n'était pas aussi classe que le Concorde, bien sûr, pas du tout confortable, c'était apparemment pire qu'un Ryanair, les sanitaires n'étaient même pas opérationnels, donc voilà, c'était de la merde, quoi, mais au moins lui, il volait contrairement au SST, donc ils ont gagné cette guerre-là contre les États-Unis. Et en juin 1973, pendant un vol de démonstration du Concordski au Salon du Bourget,
Concordski.
Et plus de Concordski.
Ah.
Il s'est écrasé.
Oh merde.
Donc, ouais,
c'est... Ce qui a fait un peu mal aux commandes, j'imagine.
Oui, donc, le pire, c'est que ça a continué à voler derrière, mais qu'en vol inter-Russie.
Ah d'accord.
Inter-URSS.
Bah, après, c'est grand, donc ça va, ils ont de quoi l'utiliser.
Oui, mais ça n'a pas fait long feu. Donc c'était très triste pour
la famille du pilote, je suppose. Mais c'était une bonne nouvelle quand même pour le Concorde. Il n'y avait plus de concurrence. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de problème pour autant. En 1973, première grosse crise pétrolière. Le prix du kérosène a explosé et du coup, bah, ça coûte encore plus cher. Et c'est pas tout. Les activistes écologistes commencent à s'y opposer bien comme il faut parce qu'ils consomment, attention, 12 fois plus de kérosène qu'un avion classique.
Oh putain de Dieu!
Ça fait beaucoup de kérosène, ouais.
Donc ça fait très très cher.
Ouais, je suppose qu'ils pouvaient pas voler à l'huile de colza, le truc.
Non,
quoi.
Ouais. Pas encore.
L'huile d'olive, elle est prête.
Et à la fin de l'année 1973, donc un an après sa tournée mondiale, quasiment toutes les commandes passées ont été annulées.
Non, ouais. Bah, en même temps, ça fait longtemps qu'ils attendent les premiers qu'on commandait.
Mais le pire dans tout ça, c'est que le pire dans tout ça, c'est que même la British Airways et Air France n'étaient plus motivés.
C'est tout seul, quoi.
Du coup, les dirigeants du Concorde, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un geste commercial. Ils offraient 5 Concorde et ils toucheront l'argent qu'une fois que les vols étaient commercialisés. Donc c'était vraiment un gouffre financier ce truc. Plus de 22 millions de pounds par avion. Avant c'était 3 millions, rappelez-vous.
Oh,
et là c'est passé à 22 millions de pounds par avion.
C'est raté.
Pas mal.
Ouais. Donc c'était un peu la merde, mais ils ont quand même trouvé quelques solutions. Par exemple, le seul moment où ils étaient autorisés à dépasser Mach 1 et donc éviter le gros boom, c'était au-dessus de l'océan. Comme ça, ça dérangeait personne.
Bah, les poissons. Ouais.
Donc voilà, le premier vol commercial du Concorde arrive le 21 janvier 1976. Et symboliquement...
Ils ont réussi à trouver des gens pour monter dedans ?
Oui.
Ok.
Et symboliquement, deux avions décollent simultanément. Un de Heathrow qui est allé jusqu'à Berlin. Mmh. C'est pas très très loin, mais enfin bon.
Qui est allé ou qui devait aller ?
Qui est allé.
Oh, pas mal.
Et au même moment, un Paris-Rio.
Ah ouais, pas, pas le même niveau déjà.
Bah, il a fait une escale à Dakar. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà.
J'avais oublié de mettre une boussole.
Alors c'est là les Andes, ça la fera pas, donc. C'est ouf.
En 1977, le premier vol Paris-New York pour 431 pounds, le billet aller.
Pas cher.
À l'époque.
À l'époque, ça tape quand même.
Paris-New York, 600 balles, ça va.
Juste pour l'aller.
Bon, allez, 1200, mais en Concorde.
Mais bon, c'était 3h30. Tu pouvais faire le trajet en 3h30 au lieu de 8h. Donc techniquement, ce qui te fait arriver avec le décalage horaire de 6h avant d'avoir décollé.
Ça, c'est génial, ça.
Et en plus, t'arrives avant le son de ton décollage.
Ça, c'est quand même... Non, mais attends, on revient là-dessus quand même, c'est ouf. Tu décolles à 18h, t'atterris à 17h30.
Non, c'est ouf. Génial.
Excusez-moi, j'ai bu du Pepsi.
Mais fais donc.
Bah, bois ton Pepsi.
Donc, je pensais que ta parenthèse allait durer plus longtemps que ça.
Non, très court, moi.
Donc, les vols étaient très très bien. Tous les passagers étaient super contents. La plupart étaient soit des banquiers, des traders, des riches hommes et femmes d'affaires, des restas, voilà.
Des gens bien, quoi.
Que la crème. Et en 1981, donc 5 ans après le premier vol, Air France et British Airways ont tous deux perdu dans les dizaines de millions de pounds.
Mal engagé cette histoire.
Ouais.
Oui, mais parce qu'il me semble qu'en plus, dans le Concorde, tu peux pas mettre beaucoup de monde. En fait.
100 personnes.
Voilà, donc pour rentabiliser un trajet, déjà, c'est la merde.
Il peut être de bagages non plus. Hein, c'est, ouais. Sac à main.
C'est clairement le bus 115 de Montreuil, excusez-moi. Mais,
le truc, c'est que le seul moment où tu pouvais vraiment profiter de la vitesse du Concorde, c'était au-dessus de la mer, donc direction New York.
Ouais, les longs courriers.
Oui, parce que j'allais dire, justement, le Londres-Berlin.
Oui, non,
ils en profitent pas des masses quand même. Quoi.
Mais ils ont quand même trouvé une solution. C'était d'augmenter les prix.
Ah, malin.
Voilà. Par exemple, vas-y.
Non, j'aurais fait pareil.
Ah, oui.
Ça paraît logique.
Du coup, par exemple, là, avec British Airways, le billet pour un vol simple dans le Concorde était deux fois plus cher que dans un avion normal en première classe.
Ah oui.
Donc, il fallait vraiment vouloir voler en Concorde.
Quoi.
Donc, ça a commencé à reprendre petit à petit, mais encore, la seule destination qui était rentable, c'était le Paris-New York et le Londres-New York. Du coup, tous les Concorde achetés n'étaient pas tous en service. Enfin, ils n'étaient pas rentabilisés, quoi. Et donc, les gérants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident de donner la possibilité à tout le monde de prendre le Concorde et où ils veulent, à condition de payer 17 500 pounds par avion. Mais quand ils réfléchissent, c'est pas énorme. Parce qu'il y a 100 passagers,
ouais, ça fait
175 pounds par personne.
Disons que quand t'as ces moyens-là, quoi. Enfin,
oui.
Pas... Au final, ce... Oui, 175 pounds pour par personne, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Du coup, bah, plein d'agences de voyage ont sauté sur l'occasion. Et vers la fin des années 80, il y avait plus de 250 destinations possibles, dont 75 étaient vers les États-Unis. Donc la destination la plus rentable et la plus fréquente et la plus fréquentée, c'était plus les États-Unis, mais c'était une formule à 745 pounds, tout compris, pour faire un aller-retour dans la journée en Égypte. Dans la journée.
Très bien. Bah, ouais.
Et c'était la plus rentable.
La vache, c'est les pyramides express, le truc. Enfin,
Mais dans le documentaire que j'ai regardé, pareil, c'était super drôle, parce qu'ils interviewent une vieille dame qu'on lui posait la question « Quel était votre meilleur moment de ce séjour ?» Et elle répond
« Le Concorde.
Pouvoir partir de chez soi le matin et rentrer à temps pour prendre le thé dans le Concorde. »
Bon, tu prends l'RER, c'est pareil, Michel.
Pour 745 pounds, ça fait cher le thé. Ouais. Quoi.
Quelle vie incroyable.
Bref, le 25 juillet 2000, l'impensable se produit.
Waouh, machine à voyager dans le temps.
Madame, monsieur, bonsoir. L'essentiel de ce journal sera consacré à l'accident d'un Concorde Air France cet après-midi près de Roissy. Un appareil spécialement affrété par un groupe d'Allemands qui partait en croisière. L'avion a décollé vers 16h30 de Roissy. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'un de ses moteurs était en feu et il s'est écrasé près d'un hôtel à Gonesse.
Donc, cette histoire sera approfondie dans un autre épisode de Pardon Maman.
Ah, on part sur une saga,
ah ouais,
quoi.
Oui,
saga surprise.
Teasing.
Pas mal.
Voilà,
voilà. Bravo. Non, mais moi, alors, je t'avoue que j'étais persuadé qu'il s'était pété la gueule à son premier vol.
Non,
que j'ai appris quelque chose.
Non.
Mais c'est pour ça que je pensais vraiment qu'il s'était pété la gueule très vite.
Eh ben, t'avais tort.
Mais ouais, mais ouais. Mais voilà, bah, du coup, voilà, au lieu de parler, c'est à toi.
C'est vrai.
Allez.
Pourquoi alors?
Mais pourquoi tu fais ça, Jack?
Bah alors, pourquoi, bon Dieu?
Pourquoi quoi?
Bah pourquoi t'as fait ça, quoi?
Pourquoi tu dis ça?
Pourquoi?
Pourquoi faire?
Pourquoi?
Tu sais très bien pourquoi.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que des bam 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 et
tagra. On fait des doigts d'honneur.
Mais parce que tu m'as vénère là aussi là.
Bah oui.
Tu me regardes depuis tout à l'heure.
Il y aurait pas une petite histoire de guerre de 100 ans?
Ah, il y en a plusieurs.
Ouais.
Ah, cool. Alors,
j'avais entendu parler des archers.
Oui, mais ça c'est pas le doigt d'honneur. Parce que si tu me fais un doigt, tu le fais comment?
Ouais, mais
fais-moi un doigt d'honneur là tout de suite. Voilà. Très bien. L'histoire des archers n'a rien à voir avec ça.
Un deuxième et c'est cadeau.
On va y revenir. Donc le doigt d'honneur le plus connu pour nous, c'est le monodoigt, hein. On est d'accord.
Oui.
C'est un bon gros majeur bien levé.
Donc ça part clairement en technique, quoi.
Ah oui, oui, là on va faire des tricks de WAD. Donc la première trace écrite qu'on ait du doigt d'honneur, pour savoir à peu près d'où ça vient, ça remonte à 423 avant Jésus-Christ, en Grèce.
Ah oui, donc on est bien avant la guerre de 100 ans.
Première trace écrite, peut-être qu'on le pratiquait avant. Hein. Parce qu'encore une fois, la guerre de 100 ans, c'est pas celui que nous on pratique, mais on va y revenir.
Ah, ouais.
Donc à l'époque, le majeur, il avait déjà une connotation phallique. Hein. C'est le plus grand doigt, voilà, c'est ma bite, hein, clairement.
Tu es le plus grand doigt.
You wish.
You wish. Non. En fait, dans une comédie d'Aristophane qui s'appelait Les Nuées.
D'Aristophane.
Aristophane.
Je te propose que tu explicites le mot.
C'est le prénom.
C'est le monsieur okay,
voilà.
qui a écrit.
Ah ok, voilà.
C'est pas un adjectif. Il est
Les Nuées, donc. Socrate questionne un disciple sur la métrique en poésie. Vous voyez ce que c'est la métrique en poésie?
Les pieds.
Quand on
ça.
Mesure, ouais, voilà le.
D'accord. Oui, alexandrin, okay, oui. tout ça.
Pas exactement, mais ouais, c'est la manière de mesurer, on va dire, la poésie. Et un des disciples, donc, qui s'appelait Strepsiade, lui dit qu'il connaît très bien le dactyle. Et il dresse son doigt.
Non, mais on arrête avec les mots. Le mec qui s'appelle Strepsil, il connaît le dactyle.
T'avais plein de marques à poser ou quoi?
Oui, bah, je prends de la thune. Non, Strepsiade.
Il connaît le dactyle.
Il connaît le dactyle et il fait ça. Je connais très bien le dactyle en levant son doigt. Alors pourquoi il lève son majeur pour dire je connais très bien le dactyle? Parce que en fait le dactyle c'est deux longues
phalanges,
deux syllabes courtes, pardon, et une syllabe longue. Enfin voilà, c'est on s'en sert pour compter la longueur du poème en fait.
D'accord.
Des
phalanges.
Okay,
donc si vous regardez votre majeur, il y a deux longues phalanges et une petite.
C'est une syllabe longue et deux syllabes courtes.
Je suis en train d'imaginer les auditeurs dans
dactyle.
Le métro.
Okay.
Dans le métro en train de faire un gros wad et dire ah oui.
Et c'était considéré comme un moment très drôle dans la pièce parce qu'il disait moi je connais bien le dactyle et il lui faisait un gros wad.
Ah mais c'était burlesque à l'époque.
C'était plutôt burlesque.
Bah, oui.
Et en fait, mine de rien, c'est la première trace écrite qu'on ait d'un doigt d'honneur en fait.
Okay.
Cette scène là. En Grèce, on appelait ça d'ailleurs le doigt d'honneur, on appelait ça un catapugon. Je prononce pas en
non,
grec.
Non, ça c'est des nouilles.
En fait, littéralement, ça veut dire homme qui reçoit une pénétration anale.
Non.
Voilà. Donc, et malgré ce qu'on peut retenir des mœurs grecques à l'époque, c'était bien une insulte. Hein, donc,
oui, oui,
le fait de faire un doigt, ça voulait dire je pénètre
ton
nu.
Voilà.
Voilà. Donc catapugon, rappelez-vous.
Oui. Je suis pas sûr de le réutiliser, mais je note.
Bah, moi, je trouve ça pas. Plus stylé que Doigt d'honneur. À Rome, pendant ce temps, non, à Rome, on était plus figuratif. On appelait ça le digitus impudicus.
Ah, le doigt impudique.
Le doigt impudique.
Oh, c'est beau.
Le majeur, c'était la bite. Les autres doigts, c'était les couilles.
Oh putain, ah, voilà. Il est tellement content. J'aime bien.
Le digitus impudicus. Et donc, vu l'influence géographique de la civilisation romaine, on peut comprendre que ce soit celui que nous, on utilise et que la plupart des gens utilisent, en fait, que ce soit le majeur, puisque ils sont apparemment parcouru l'Europe. Pour faire des doigts...
C'était uniquement ça, bien sûr.
Probablement. Au 1er siècle aussi, sur le pourtour méditerranéen, on aurait peut-être utilisé le digitus impudicus pour éloigner le mauvais œil. Quelque chose d'une espèce de rite.
Arrière sorcier,
voilà.
Le rhum ça fait aîné avec le 1 sur tes yeux.
Il n'y a pas vraiment de preuves de ça. Enfin, c'est une théorie. J'ai pas trouvé davantage d'informations pour soutenir cette théorie-là. Mais bon, potentiellement, vous pouvez éloigner les esprits en lui faisant des wads. Et la première représentation graphique que l'on ait d'un doigt d'honneur, du coup, à votre avis, elle date à peu près de quand ?
De la Banksy.
Fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge.
Non, la haine des années 90.
Elle date de 1886.
Ouais. Oh la vache !
C'est très tard. Et la première représentation graphique qu'on ait, c'est une photo. Non. Moi, je m'attendais à une gravure ou une tapisserie.
Génial.
Et non, ils n'ont pas fait de tapisserie de gens qui font des wads. Donc, c'est une photo. Une photo de groupe après un match de baseball entre les Boston Bean Eaters et les New York Giants, où un des joueurs fait un doigt au photographe. Qui s'appelait Jérémy. Si cette info peut vous
aider. Le joueur ou le photographe ?
Le photographe s'appelait Jérémy.
Si vous réussissez à ressortir cette information à un apéro, mais alors là. Le tu t'appelles Jérémy, mais comme le photographe.
Comme le mec, comme le premier doigt, comme le premier mec qu'on sait qui s'est pris un doigt. Non, parce qu'en fait, dans les. Qui s'est pris un doigt, pas exactement.
Ah oui.
Ouais, bon,
non, il y avait d'autres récits de fiction aussi de la Grèce antique qui parlaient du doigt d'honneur, mais bon, je vais pas tous vous les citer parce qu'on est sur un pourquoi. Anecdote.
Ah.
Au Japon, quand vous faites un doigt d'honneur.
Ça veut dire bonjour.
Ça veut dire frère, en langage des signes. En fait, le majeur signifie frère, le pouce, c'est le père, l'index, la mère, et l'annuaire, la sœur, et l'auriculaire, le bébé. Donc en fait, c'est la famille.
En
langue des signes,
okay.
Au Japon.
Okay.
Donc voilà, si vous parlez avec un muet japonais, si vous faites un doigt, ça veut dire frérot, vous le saurez.
Yo.
Et donc, renonçant à l'autre doigt d'honneur qu'on connaît, à savoir... Le V, alors,
doigts, ouais. Ah, moi, je pensais pas
deux ça. Doigts, paume vers vous. Mmh. Parce que dans l'autre sens, c'est...
Voilà. C'est pas le lapin, c'est le lapin qui tourne le dos.
C'est le lapin de
avec
dos.
Avec les oreilles dressées.
Exactement. Le lapin de dos avec les oreilles
Faites
dressées.
Ça dans le métro aussi, ça va être bien. Vous reconnaîtrez comme ça.
Alors, on appelle ça un V, mais en fait, c'est un U. Tel qu'on l'utilise de manière moderne, c'est pour « up yours ».
D'accord.
Pour
« up yours ».
Ah.
On voit vite fait ce que c'est
dans,
à vouloir dire.
Dans le tien.
Voilà. Oui, oui, oui.
Dans tien séant.
Dans ton séant, frérot. Si vous êtes en train d'insulter un japonais, j'imagine. Et donc, les origines du V, elles sont plus connues. On connaît à peu près toute cette histoire pendant la guerre de 100 ans. Camille, les dates ?
Oh, c'était il y a longtemps. Non, ça doit être 1330 et des patates.
14-15e, ouais.
Voilà, et 1400 et des patates.
Oh, ouais. Donc petite fatigue pendant les vacances.
Ah oui, ouais.
Avant, tu nous sortais les dates comme ça.
Non, plus rien à foutre.
Il y a eu de la relâche, oui.
Donc, lorsque les archers anglais se faisaient capturer, par l'armée française, du coup. On leur coupait l'index et le majeur pour pas qu'ils puissent tirer à l'arc. Et donc, c'était potentiellement une manière pour les archers de dire « Regarde, j'ai encore mes doigts et je vais te fumer. »
Il y a d'autres choses qu'ils pouvaient pas faire, mais on ne les citera pas dans ce sujet.
Ils pouvaient pas jouer à pierre-feuille-ciseaux.
Ouais, ou alors ils faisaient que feuilles, enfin que cailloux.
Ils pouvaient pas faire le lapin.
Ouais.
Et ça, c'est emmerdant.
Et c'est emmerdant. Et après, il y a le bras d'honneur. Mais le bras d'honneur, c'est ce qu'il y a de plus phallique et basique, c'est-à-dire c'est plus gros qu'un majeur.
Mon kiki est imposant.
Voilà. Oh. Ça s'arrête là. Mais je vous invite du coup à ne plus dire doigt d'honneur, mais catapugon.
Oui,
parce que c'est plus rigolo.
C'est vrai.
Et c'était magnifique.
Oui, le remerciement,
Bien à vous.
J'ai très envie de voir une représentation de la fameuse pièce grecque où il fait le...
Les nuées.
Les nuées.
Tu te rappelles déjà même pas du nom de l'auteur ?
Non, mais non, le
truc. Apostrophe et strepsil.
Oui. Non, mais le nom du wad là avec deux rimes.
Ah, dactylotac.
Ah ouais, bon, bref, on retrouvera.
Ah, le dactyle.
Ah, dactyle, le dactyle.
Voilà. Enfin, c'est pas du grec, dactyle, mais. Travaille ta poésie, tu sauras.
Et du coup, là, écoute, la transition est toute trouvée. Puisque mon sujet n'a vraiment
absolument aucun rapport, vraiment rien à voir. Mais je vais quand même lancer le jingle.
Allez.
Ah, alerte, Arlette, Arlette, alerte, Arlette.
On va parler d'Arlette, non, d'alerte. J'ai pas fait de blague sur Arlette Laguiller, tout ça.
Non, mais t'as mis taxi, c'est bon, t'en as fait assez, je pense.
Voilà, parfait.
Très bien.
Donc, je vais vous parler des lanceurs d'alerte. À la base, j'ai préparé ce sujet pour un événement, pardon, qui n'a pas eu lieu. Mais bon, ça, c'est du off. On vous transmet, ouh là là, les petits coulisses de pardon, maman. Non, voilà, ça fait un petit moment que j'avais préparé ce sujet. Mais là, ça tombait pile poil parce que, comme je le disais en intro, ce cher Edward Snowden, Ed Snowden pour les intimes, que je ne connais pas, mais donc Ed Snowden qui va publier ses mémoires qui sortent le 17 septembre en plein de langues, dont le français. Donc, je vous en parlerai plus tard.
Juste, c'était lui qui était à l'ambassade du Venezuela ou Colombie ou... Non, parce que je confonds toujours lui et l'autre là.
Et Assange.
Et Assange.
Ils n'ont pas du tout le même truc. Assange, il a monté Wikileaks et lui, il a lancé une alerte contre la CIA qui faisait de l'écoute massive.
Ok.
Et du coup, alors pour les lanceurs d'alerte, en fait, j'ai une espèce de fascination de longue date et je ne comprenais pas trop pourquoi. En fait, j'avais l'impression qu'ils avaient une responsabilité énorme et vraiment qui me paraissait dantesque. Oui, je n'ai pas marqué dantesque. Qui me paraissait monstrueuse. Et voilà, j'ai fait un peu de recherche et en fait, vous me direz ce que vous en pensez, mais ouais, j'avais l'impression que c'était vraiment ce qui se rapprochait le plus des super-héros de comics dans le monde réel. Et j'espère que vous comprendrez pourquoi. En tout cas, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup, énormément de respect pour ces personnes. C'est un sujet qui est plutôt délicat parce que c'est souvent une espèce de zone grise au niveau légal. C'est un peu, enfin, au niveau légal et éthique, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, ce que je vais essayer de couvrir avec vous, c'est de voir qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte, comment on lance une alerte et qu'est-ce que ça implique. Parce que c'est une espèce de numéro d'équilibriste pour le lanceur d'alerte et encore, c'est un euphémisme parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un petit rappel rapide, si je vous dis lanceur d'alerte, pour vous, qu'est-ce que c'est ?
C'est un mec qui va balancer une grosse info à tout le monde, quoi, à l'opinion publique.
Qui fout sa vie en l'air pour le bien commun.
Ah, vous êtes pas mal.
Le bien commun, encore une fois, c'est discutable, mais quelqu'un qui va mettre de côté son bonheur personnel parce qu'il a un message trop important à faire passer.
Eh bien, vous êtes pas mal du tout. Parce qu'effectivement, un lanceur d'alerte, ça fait quoi ? Ça dévoile des informations au grand public, parfois par le biais de médias. Et maintenant, je vais rentrer dans les petites précisions, mais vous étiez vraiment ultra juste. Donc déjà, merci. Pourquoi lancer une alerte ? Généralement, c'est pour prévenir d'un danger. Donc pas pour soi, pour rejoindre ce que tu disais, Juan, pas pour soi, mais pour la société. Donc il y a une première notion de philanthropie qui est même prévue par la loi, parce qu'il y a des lois qui encadrent le fait de lancer des alertes. Alors personnellement, j'ai principalement parlé des...
C'est récent, non ?
J'en parle pas juste après, mais un peu après. Okay. Mais perso, j'aime baser un petit peu sur ce que j'ai pu trouver en France et aux États-Unis. Mais après, ça dépend de chaque pays, en fait. Mais donc, de manière générale, il y a une notion de philanthropie. Donc, l'acte du lanceur d'alerte, doit être totalement désintéressé. Donc, il doit être question ni d'argent, ni d'intérêt personnel, ni de désir de nuire. Et une alerte ne peut pas cibler une personne, mais elle doit forcément cibler un système. En gros, tu ne dois pas dire « Ah, c'est telle personne qui fait de la merde », mais c'est potentiellement « Il se passe tel truc qui est chaud ». Après, ce système est potentiellement géré par une personne, mais tu dois dénoncer un système qui met en danger la société et pas essayer de mettre à mal une personne. Un danger pour la société, à votre avis, ça peut être quoi ?
Un truc secret défense ?
Je sais pas. Premier exemple qui me vient en tête, mais tu découvres qu'une société déverse tous ses déchets dans le lac d'Annecy.
Ouais. Et un risque sanitaire, effectivement, il y a des risques écologiques, moraux, éthiques, enfin moraux en l'occurrence, parce que tu es au pluriel. Mais donc moral, éthique, il y a plein de façons de mettre en danger la société. Et parmi les grandes alertes des dernières années, est-ce que vous en avez en tête, pas que en France ?
Snowden, Assange.
Ouais.
De principal.
Sachant que
lanceur d'alerte.
Assange, c'est très différent. C'était pas un lanceur d'alerte.
Il y avait une femme aussi, une jeune femme qui avait fait.
Je sens que t'as un truc. Je la cite à la fin, mais.
Je l'ai plus. J'ai un truc
de des médicaments, par exemple, qui causeraient des problèmes.
Oui.
Mediator.
Exactement.
Oui.
Mediator. Et j'ai le nom à la fin, désolé, je ne l'ai pas ici dans mes notes, mais je le citerai à la fin. Mais effectivement, le Mediator, il y a des substances toxiques comme l'amiante, par exemple, où il y a eu plusieurs alertes de lancer. L'usage de la torture dans les techniques d'interrogatoire de la CIA, je l'ai cité à la fin également. Mais c'est ce qu'on appelait le waterboarding, qui était une affaire monstrueuse. Les systèmes de surveillance de masse orchestrés par la NSA, donc ça, c'était Snowden. Vrai, ouais. Les cas de corruption à grande échelle. Donc ça, tout ça, effectivement, ça fout un peu le bordel dans la société, que ce soit la corruption ou l'intoxication, c'est quand même vachement dangereux. Et vu comme ça, on pourrait se dire, les personnes qui lancent les alertes, on pourrait leur dire, putain, mais c'est trop cool, merci de nous avoir prévenus, parce que on était dans la merde, et heureusement que tu nous as sortis de là. Mais souvent, ça se passe pas pile-poil comme ça.
Alors, j'ai une question, je sais pas si tu réponds dans ton sujet, je sais pas s'il y a une différence entre un journaliste qui va publier un sujet, une enquête, et un lanceur d'alerte.
Ouais, il y a une énorme, enfin, c'est deux statuts totalement dissociés.
Ok, je me demandais la légitimité du non lanceur d'alerte du coup par rapport à un journaliste dont c'est le métier de faire ça. En fait.
Un journaliste, du coup, t'as des sources et t'es pas forcé de les citer, mais tu vas transmettre un message qui t'est donné. Et un lanceur d'alerte, bah, justement, je vais parler. Ah, magnifique transition, du cadre légal, et t'as un cadre légal qui est précis, qui te permet de faire certaines choses.
Parce que là, ce que les gens ont potentiellement en tête de plus récent, c'était les affaires avec Mediapart. Bon, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont discutables, mais c'est là où on a eu le plus de révélations, ouais. On va dire.
Effectivement,
pauvre Benalla.
Et pas que. Non, mais effectivement, c'est une bonne remarque. Il faut absolument séparer le média du lanceur d'alerte, en tout cas le lanceur d'alerte peut être journaliste, mais je vais expliquer qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être considéré comme lanceur d'alerte. C'est un statut vraiment très particulier. Donc, le périmètre d'action du lanceur d'alerte, en fait, ça se limite uniquement à la transmission d'informations. Donc, si ces informations sont considérées, enfin, sont confidentielles, le fait de lancer une alerte, ça permet de lever cette confidentialité, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a, comme je disais, c'est une zone un peu grise. Normalement, on peut être engagé à ne pas révéler certains secrets, mais s'ils mettent en danger la société, on est protégé par la loi pour le faire. Par contre, le lanceur d'alerte ne peut être protégé que s'il a obtenu ces informations légalement, donc s'il était censé avoir connaissance de ces choses-là, soit s'il n'a pas, on va dire, commis de vol pour ça. Donc on a, même si c'est bien intentionné, on a l'exemple des hackers white hat, enfin ce qu'on appelle les white hats, donc c'est des personnes qui vont potentiellement
leur service pour trouver des failles et
qui vont exploiter des failles pour récupérer des informations et donc prouver ou ce genre de choses. On ne peut pas voler d'informations, et de la même façon, si on vole des informations, des données et qu'on veut lancer une alerte, on va quand même être on peut être condamné pour vol tout de même, donc c'est un peu dangereux. On parlait de la loi en France depuis 2016. La loi s'est dotée d'un cadre étendu pour les lanceurs d'alerte, donc il y avait déjà un cadre et il était étendu. C'est ce qu'on appelle la loi Sapin 2.
Ah.
Voilà, je trouve un nom un peu ridicule.
Michel mais... Sapin. Noël.
Exactement. Ouais, non, pas Noël Sapin.
Sapin 2.
Sapin Noël. Noël.
Bravo.
Non, mais bon, effectivement.
La fatigue.
Non, moi je valide.
C'est la loi Sapin 2, et même si elle traite de beaucoup de choses, il y a notamment le fait d'encadrer les lanceurs d'alerte. Pourquoi il y a besoin de ça? Parce que, comme on disait, le but de la société, c'est... Enfin, on disait, j'essaie de le répéter quand je parle des sujets un peu juridiques, mais le but de la justice, c'est simplement d'avoir une société équilibrée. Justement, les lanceurs d'alerte, en toute logique, ils vont se rendre compte d'un déséquilibre dans la société, ou du fait que, potentiellement, la loi ne couvre pas certaines choses, parce que ça peut aussi arriver. Donc voilà.
C'était le cas de la NSA typiquement, non?
La NSA, oui, par exemple, ouais.
C'était pas illégal, il me semble, qu'ils faisaient. C'est juste qu'il y avait pas de loi qui mentionnait qu'ils pouvaient pas le faire.
Oui, voilà, on va dire ça. On va dire ça. Et effectivement, c'est intéressant parce que il a révélé un truc en disant en fait, c'est dit, si les gens le savaient, ils seraient ouf. Et effectivement, il avait raison. Donc la loi, comme je disais, elle permet d'outrepasser les clauses de confidentialité. Et il y a que trois exceptions à cette protection. Donc il y a le secret médical, il y a le secret juridique et les informations liées à la sûreté nationale. Ça, quoi qu'on fasse, alerte pour la société, quoi ou qu'est-ce, on ne peut pas outrepasser ces exceptions. Maintenant, je vais vous décrire comment on peut lancer une alerte. C'est plutôt simple, je ne sais pas si ça vous paraît compliqué, vous êtes chaud pour le faire
Tu balances ça sur les internets.
Comment lancer une alerte, ouais. Tu veux dire à quel interlocuteur ou par quel média?
Ah, il y a un processus qui est bien décrit.
Ah ouais?
Ouais, alors ça c'est un processus, on va dire un déroulement qui est décrit par Transparency France, qui est une association qui s'occupe des lanceurs d'alerte, qui donne des informations, etc., qui informe, et c'est aussi prévu dans la loi Sapin 2. La première étape, c'est d'utiliser, quand on a une alerte, la plupart du temps, ce dont on parle, ce sont en fait les alertes qui sont lancées au sein d'une boîte privée, mais ça peut très bien être dans le public. Donc première étape, c'est une fois qu'on a constaté le bordel, utiliser les voies d'alerte interne à la structure. Alors c'est quoi une voie d'alerte interne? En fait, c'est il y a une obligation légale d'en avoir pour toutes les entreprises de plus de 50 employés depuis le 1er janvier 2018. Donc si vous êtes dans une boîte qui a plus de 50 employés, il doit y avoir un moyen de lever une alerte en interne. C'est-à-dire dire à un de vos responsables...
Peu importe la boîte.
Plus de 50 employés. Ouais.
Genre si tu bosses chez Picard, tu peux?
Bien sûr.
Cool.
Imagine chez Picard, ils ont un risque sanitaire, tu dois pouvoir lever l'alerte. En interne, ils ont, en tout cas depuis le 1er janvier 2010, ils ont dû pouvoir gérer ça. Imaginons, ça n'a pas d'effet. Deuxième étape, transmettre les infos à une instance supérieure de justice. Une instance supérieure de justice, c'est pas le petit comico de ton quartier, c'est une cour de justice un peu costaud. Et là, tu lui donnes les infos et elle va gérer ce qu'elle peut gérer, quoi. Si là, ça ne fait rien, Troisième étape, transmettre les infos à des ONG ou des médias qui auront pour but de diffuser l'information. Là, tu as le droit de le faire. Le passage d'une étape à une autre, ça peut se faire que si le système ne répond pas et sous un délai de 3 semaines à 3 mois, donc suivant les étapes. Donc je crois que pour l'étape 2, l'instance supérieure de justice, elle a 3 mois pour te répondre. Donc si d'accord. tu veux rester dans les clous de la loi, tu dois attendre 3 mois. Ah là là, il y a des gens qui meurent, là là là. Enfin, il y a des gens qui meurent, pas tout à fait, parce que s'il y a un danger imminent, tu peux sauter les étapes et passer directement de l'étape 1 à l'étape 3, par exemple, ou directement à l'étape 3. Si tu vois qu'il y a un danger qui est imminent, tu peux y aller direct. Pour l'étape 3, pour le fait de diffuser l'information, tu peux le faire que qu'à des médias. Le but, c'est de le publier, enfin de le diffuser de manière publique, parce que si tu veux l'envoyer à un autre état ou à une entreprise tiers, ça peut être considéré comme de l'espionnage, alors que ton but est censé être désintéressé et de ne pas nuire à l'entreprise, etc. Le but, c'est de faire du bien à la société plutôt que de nuire à quelqu'un.
Et... Oui, mais tu peux quand même nuire à quelqu'un si tu fais du bien à la société.
Oui, mais ton but premier, ça doit quand même être de...
D'accord, ok, oui.
Si le quelqu'un auquel tu nuis, c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui met des toxiques dans tous les surgelés Picard, c'est pas ouf. Et enfin, comme je disais, il y a quelques conditions pour être lanceur d'alerte. En France, en tout cas, on ne peut lancer une alerte, et ça, c'est un point qui est un peu saillant pour la dernière partie du sujet, c'est que pour lancer une alerte, on ne peut être qu'une personne physique. Une personne morale, enfin une entité morale ne peut pas lancer une alerte. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas lancer une alerte, une association ne peut pas lancer une alerte.
Il faut que ce soit vraiment...
Donc là, imaginez, on est quatre et on va, je sais pas, à un festival de... Je sais pas, on est quatre, on monte une boîte, on devient 500, voilà, c'est ouf. On se fait recruter par une boîte, on est quatre, et on voit qu'il y a un truc de ouf. On ne peut pas lancer l'alerte à quatre.
Oui, il faut que ce soit l'un d'entre nous qui se dévoue.
C'est une personne physique qui doit le faire.
Il ne faut pas que ce soit au nom de l'entreprise, mais
exactement.
Au nom de toi-même.
Et c'est ce que je trouve assez ouf, et vraiment le côté super-héros, c'est que tu portes tout sur tes épaules. Donc là, je vais rentrer dans la dernière petite partie, ce que j'ai appelé le paradoxe du lanceur d'alerte et la responsabilité du lanceur d'alerte. C'est que vu qu'il n'y a qu'une personne physique qui peut le faire, ce dont il faut se rendre compte, si on prend le cas d'Edward Snowden, alors c'est pas ma personne préférée dans le monde, mais je trouve qu'il a quand même fait des trucs.
Les gens le connaissent, quoi.
Et voilà, et surtout, effectivement, les gens connaissent.
Il est moins shady que Assange, je sais plus.
Son cas est assez simple, en fait. Il a constaté qu'il y avait des écoutes massives qui étaient orchestrées par la NSA, et il a décidé de rendre ça public. Basta. Le fait est que si ces écoutes massives étaient orchestrées, il y avait d'autres personnes qui étaient au courant, parce qu'elles avaient mis ça en place, etc. Et puis elles ont dû passer, elles ont dû voir ça passer un jour ou l'autre. C'est-à-dire que Edward Snowden, c'était pas le premier à être au courant de ce truc-là. Par contre, c'est lui qui porte toute la responsabilité, parce que c'est le premier à avoir décidé à rendre ça public, et c'est le seul à aujourd'hui pouvoir assumer tout le bordel juridique qu'il y a derrière. Donc c'est ultra ingrat, et je trouve ça un acte qui est extrêmement lourd de conséquences que de lancer une alerte. Le cas, effectivement, lancer une alerte, contrairement à d'autres choses, genre non-assistance à personne en danger, etc., c'est un droit, mais c'est pas un devoir. Donc tu peux lancer une alerte, mais t'es pas obligé. Donc c'est pas parce que t'as connaissance d'un problème que tu dois le faire. Donc t'es d'autant plus isolé parce que c'est la première personne qui, comme tu disais, Juan, tout à l'heure, qui est décidée à pourrir sa vie, qui le fait. Et enfin, si t'as besoin... On peut facilement avoir, dépend des médias qu'on lit effectivement, des médias qu'on consulte, mais on peut avoir une image assez négative des lanceurs d'alerte parce qu'en fait ils sont tout le temps dans des histoires de ouf, des bordels sans nom et tout, mais c'est normal parce qu'en fait si t'as besoin de profiter du statut de lanceur d'alerte, c'est que t'es déjà dans un cas qui est ouf parce que soit la loi ne couvre pas les événements que tu révèles, soit il y a quelqu'un qui essaye de cacher ses agissements à la loi, donc t'es forcément dans un truc un peu, comme disait Shady, un peu sombre et un peu foireux.
Oui, parce que tu vas voir les personnes... Enfin, des avis de légitimes de ce qu'aurait pu faire, par exemple, je prends Assange comme exemple sur les histoires de viol, de machin, et t'as une autre partie de gens qui vont dire bah non, mais en fait, c'est un coup monté pour qu'il soit rapatrié aux États-Unis, pour qu'il soit jugé, machin, ce qui est dans l'univers du possible, on va dire.
Sachant que, comme ce que je disais, Assange, il avait une plateforme qui relayait des informations, mais il n'était pas la source d'informations. Alors que
c'était des militaires, il me semble.
Voilà, un lanceur d'alerte, des militaires ou autres, en fait, c'était des
gens qui étaient envoyés.
C'est envoyé anonymement, je crois. Enfin, tu pouvais envoyer.
Il y a eu Manning, le Chelsea. Militaire qui a Chelsea Manning, c'est ça, qui est une source confirmée. Après, il y en a peut-être eu d'autres.
Oui, il a eu énormément. Et oui, globalement, il peut arriver effectivement des broutilles parce qu'on parle beaucoup des lanceurs d'alerte privés qui peuvent être protégés ou non par la loi, parce qu'après, tu peux avoir des trucs foireux, etc. Mais il y a le cas très, très, très pervers, et c'est là que le paradoxe est d'autant plus fort, du cas où tu veux lancer une alerte sur des actions publiques. Et dans ce cas-là, en fait, la loi est censée être protégée, et même si la justice et l'État ont une certaine forme de séparation suivant les pays, il y a quand même une porosité qui est non négligeable. Et donc l'entité qui est censée être protégée a potentiellement une proximité avec celle que tu décris. Donc c'est un peu dangereux. Donc voilà, c'est une situation plutôt, plutôt difficile, alors que tu es censé faire, on va dire, pour le mieux. Donc si on prend l'exemple de Snowden, il s'est réfugié en Russie pendant quelques années.
Et, en Suède.
Ah, possible aussi.
Suède, c'est pas Assange, justement.
Non,
non, et non, Suède, il faut surtout
non,
pas
non,
qu'il...
Il était,
Assange, il faut surtout il, pas qu'il ait
un
Suède,
il était dans l'ambassade du Honduras, Assange.
Je me rappelle Jamie, non, James Oliver, non. John Oliver,
John Oliver,
il
l'avait
interviewé.
Exactement, c'était à Moscou. Mmh. Et donc, pour finir, j'ai quelques exemples de gros cas qui ont été révélés, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc il y a le waterboarding à la CIA qui a été révélé par John Kiriakou. Oui, ça ressemble à Kirikou, effectivement. Mais John Kiriakou, il a fait un truc de ouf, je passe dessus très très vite, mais le waterboarding, c'est quoi? C'est de la simulation de noyade qui était utilisée
une
pour...
penchée, un torchon, un
solo. Ah, oui.
Voilà. Et c'était utilisé pour la technique d'interrogatoire et de torture.
C'était quand, ça?
J'ai pas la date, mais c'était il y a pas si longtemps.
Hein. Ah ouais,
ouais, c'est entre 2000 et 2010, non?
Ouais, c'est plus... Bah, le mec a purgé, du coup, ça a mal fini pour lui, parce qu'il a purgé sa peine de prison plutôt récemment. Ouais, alors qu'il avait deux gamines, le pauvre, enfin deux gamins, je crois. Enfin bref, il avait deux enfants, et en fait... Pour faire très très simple, il savait qu'il y avait des techniques d'interrogatoire qui étaient, on va appeler ça comme ça, mais très très poussées. Sauf qu'elles étaient censées avoir fait leurs preuves, donc il y avait des preuves qui avaient été avancées par la CIA. Sauf qu'il a appris par certains rapports internes que plutôt que d'avoir, mettons, deux tentatives et avoir des résultats à la fin, en fait, ils avaient fait genre 15-20 tentatives et qu'ils n'avaient eu aucun aveu derrière. Donc il a décidé de révéler ça, et au final il a perdu son procès et il a fini en tôle. Voilà.
Oh,
alors qu'il avait raison, parce que tout ce qu'il avançait était vrai, mais on l'a attaqué.
C'est inhumain aussi.
On l'a attaqué pour mise en péril de la sûreté nationale.
Le truc, c'est que tous les lanceurs d'alerte qui sont les plus connus, c'est ceux qui sont le plus dans la merde, parce que c'est ceux qui se sont mis en face de l'armée américaine, en fait. Tout simplement.
Clairement. Alors là, du coup, c'est pas l'armée américaine, mais c'est le Mediator. On en parlait tout à l'heure. C'est Irène Frachon qui a mis en avant la toxicité, parce que je sais pas exactement comment ça marche, mais le fait que Mediator, c'est un médicament qui avait tué plus de 2000 personnes, si je dis pas de bêtises. Donc plutôt, ça a fait un énorme bruit en France il y a quelques années. Il y a le cas de l'amiante où il y a différents cas. Le fait que l'amiante soit dangereuse, et aussi le fait qu'on en ait utilisé partout. Il y a Snowden, enfin plein de choses. Et pour finir, des petites recommandations. Je vous conseille le documentaire Citizen 4, qui est monstrueux, qui a reçu l'Oscar du meilleur film documentaire en 2015. Okay. Et il est vraiment ultra bien foutu.
Laura Poitras. Je vais faire la petite histoire rapidement. En fait, Laura Poitras, c'est donc une réelle documentaire assez engagée et qui a reçu en 2013 un mail anonyme signé Citizen 4. Et en fait, Citizen 4, c'était Edward Snowden qui lui disait « Rejoignez-moi dans mon hôtel à, je sais plus, c'est à Tokyo, je crois, ou un truc comme ça. » Et ils sont allés dans sa chambre d'hôtel, et le documentaire, c'est en temps réel, en fait, dans la chambre d'hôtel d'Edward Snowden, dans laquelle il est planqué, et il raconte tout ce qu'il a fait, comment il
est. C'est vraiment les premières images, parce que c'est le Guardian qui a révélé ses premiers, qui a sorti les premiers papiers sur lui, et les images sont ouf, parce que t'as le journaliste qui le voit pour la première fois, qui lui demande son prénom, quoi. Donc t'as Edward Snowden qui lui dit, je m'appelle Edward, vous pouvez m'appeler Ed, etc. Et c'est vraiment les tout premiers moments, le documentaire est très bien foutu, c'est magnifique, et tu vois toute l'histoire du début jusqu'à le début de sa fuite, entre guillemets, parce qu'il a fait un peu de cavale.
On conseille largement d'ailleurs le documentaire par rapport au film de fiction qui est sorti, qui est beaucoup moins intéressant.
Ah oui, non, le documentaire en plus, il se regarde, il est aussi bien foutu qu'un film, il est génial. Et donc, comme je vous le disais, si j'ai sorti ce sujet maintenant, c'est parce que donc, Snowden sort ses mémoires qui auront pour titre en France Mémoire vive, puisque ça sera traduit en français.
Random Mémoire vive. Memories en anglais, j'imagine.
J'hésite parce que je crois que c'était Memories, mais je sais pas s'ils l'ont passé en RAM.
Ce serait plus fun en RAM.
Ça serait rigolo. Mais voilà, ça sort le 17 septembre, je vous encourage à l'acheter. En tout cas, personnellement, je le ferai et puis je vous en parlerai. Mais au moins, Citizen 4, c'est monstrueux. Et regardez ça, c'est génial.
Bisous.
Eh bien, merci beaucoup.
Et Snowden est sur Twitter, donc envoyez-lui des bisous.
Parce que, je tiens à dire que t'as fait un sujet d'une durée tout à fait respectable.
Bah oui.
J'ai fait de mon mieux.
C'est bien.
C'était pour la repression.
Dites-nous dans les commentaires si vous voulez. Si vous voulez plus de sujets de cette longueur.
J'ai speedé.
Eh bien, c'est au tour de Camille.
Oui.
Dis-moi, tu n'aurais pas vu un petit chien grand comme ça? Ou comme ça?
Non, mais c'est des dingos! Mais quel chien! Un énorme chien rouge! Je l'ai jamais vu comme ça!
Elle te rend ding 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 quand elle a son poum poum chat.
Très bien. Magnifique.
Voilà quoi. Ai-je vraiment besoin de faire un sujet après ce jingle?
C'est tellement bien résumé.
Alors les dingos,
donc en effet, comme je vous le disais, j'étais en Australie très récemment où j'ai croisé tout un tas d'animaux plus ou moins charmants.
Oui.
Et sur une jolie île qui s'appelle Fraser Island, j'ai eu la chance d'apercevoir un dingo. Et pour moi, le dingo, c'était un chien sauvage, en fait. Enfin, je m'intéressais pas
que
du
je
tout
sais même pas
à cet
c'est.
Animal avant.
C'est entre chien et loup.
C'est un chien sauvage.
Voilà.
Oui,
voilà, pour moi, c'était bonne juste définition. Un chien sauvage, mais c'est-à-dire un chien, à la rigueur, si t'as un petit morceau de jambon en lui faisant... Il va venir. Alors, tu
j'espère
vois.
Que c'est mieux que ça, parce que sinon ton sujet va vraiment être.
Je crois que t'as un problème avec le mot sauvage. Le principe de sauvage, c'est quand tu fais. Avec le jambon, généralement, il vient pas.
Oui, non, mais tu sais, par exemple, en Franche-Comté, si t'appelles un chevreuil, enfin, parfois.
Oui, avec un morceau de jambon, putain. Mais les jambons, ils leur sautent dessus, mais pardon, vas-y, vas-y, après toi.
Enfin, bref. Et en fait, c'est un animal qui est archi mignon, mais qui. Et ça, je l'ai très vite compris, en fait, à la lecture des panneaux qu'il y a un peu partout sur l'île.
C'est une saloperie.
C'est une putain de saloperie, exactement. C'est un animal assez badass.
En même temps, il s'appelle le dingo, pas le câlin.
Oui, c'est vrai. Donc, j'ai eu tout à fait envie de vous en parler. Donc, justement, est-ce que vous voyez un petit peu ce que c'est qu'un dingo ?
C'est un genre de clébard.
Voilà.
C'est comme un peu comme un...
C'est un chien hyène.
Un shih tzu, un peu.
C'est... Non,
un shih tzu. Non, un shiba.
Oui, ça se rapproche plus. Un shih tzu, non.
Le truc féroce, plein de poils.
Non, c'est un shiba du désert, un peu.
C'est un clébard qui a la gale.
Non, c'est joli, c'est roux. Ouais. C'est un peu plus petit qu'un berger allemand, puis je sais pas, on dirait un chouchou avec des poils plus courts en fait, moi je trouve. C'est tout mignon quoi. Non
quoi horrible l'anime entre le berger allemand et le chouchou. Genre.
Non, mais c'est. Enfin voilà, c'est plutôt choupi, et d'ailleurs, chiot, c'est de la mignonnerie.
Oh, elle a une photo.
Absolument, oui.
Il est tellement beau.
Mais oui, c'est archi mignon.
Oh non,
voilà.
Trop mignon.
Et puis c'est radiophonique.
Ah bah c'est archi radiophonique. C'est ce que je me suis dit en imprimant cette photo.
Vous imaginez une petite boule de bonheur avec.
De la
mignonnerie en plus.
Oui, voilà.
Oh là là, trop choupi.
Et donc, il est considéré comme un animal emblématique de l'Australie. Parce que d'ailleurs, sa deuxième appellation, je crois, c'est chien sauvage d'Australie. Mais on en trouve aussi, d'ailleurs, il faut le savoir, en Thaïlande. On en trouve aussi en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines, mais qu'en Asie du Sud-Est.
Okay.
Voilà. Et essentiellement en Australie. Mais c'est un détail qui aura son importance par la suite. Pas en Tasmanie. Que sur le continent australien. Voilà. Donc, pour vous décrire l'animal, il pèse entre 10 et 20 kilos selon l'animal. Il vit en moyenne 10 ans. Voilà. C'est le seul chien qui n'aboie pas.
Il fait quoi ?
Il éternue.
Ah, il a faim.
Voilà. Et d'ailleurs, en fait, moi.
Attends, mais pour sonner l'alerte, ça doit être un peu chaud. Quoi.
Entre eux, t'as toute la meute. Et d'ailleurs, en fait, j'ai réalisé qu'en Australie, c'est un pays qui est peuplé d'animaux dont. J'ai du mal à imaginer le son, en fait. Tu sais, le dingo, du coup, l'iguane, le kangourou, tu sais, ça fait quel... Enfin,
ah,
voilà.
C'est vrai.
Le koala, l'opossum, enfin...
Le koala, c'est marrant, le bruit.
Ah, mais faudrait que je me renseigne, j'ai hâte. Donc,
Par du principe que tous les animaux que tu sais pas ce que ça fait... à peu près.
Mais non, le koala, ça fait pas... Si. Oh mon Dieu, j'ai hâte de googliser ça. donc, voilà. Alors, petite précision, le dingo, en fait, ça n'a pas de rapport avec la définition de t'es complètement dingo. Ouais, y a aucun rapport entre les deux. Le mot t'es dingo, ça vient de dingue qui vient de dengue qui est la maladie qui rend fou.
Charmant. Voilà. D-E-N-G-U-E. Dingue.
Absolument. Le mot dingo pour l'animal, en fait, il vient d'un nom aborigène qui lui aurait été donné par les aborigènes de la région de Sydney. Voilà. Donc, vraiment pour le coup.
Et qui voulait dire.
Dingo.
Ok, donc oui, on est sur.
Sur de la précision scientifique. Voilà. Donc, c'est l'un des plus vieux chiens du monde qui existe aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, il faut le savoir, voilà, étant donné qu'il a probablement été introduit en Australie 3000 ans avant notre ère. Donc, ça fait 5000 ans qu'il est en Australie. Il a été introduit par l'homme. En fait, de base, c'était un chien domestique.
Ok. Attends, un chien domestique il y a 3000 ans.
De quoi ?
C'est un chien domestique d'il y a 3000 ans ?
Oui. Okay. Enfin, il y a 5000 ans, du coup, 3000 ans avant notre ère.
Ah oui.
Eh oui.
Ok.
En gros, il aurait été ramené d'Indonésie par des marins.
Putain, voilà. Il devait être vénère. Hein, parce que déjà, les chiens qui ont survécu au voyage, ils devaient être costauds. Hein.
Mais du coup, c'était un chien, tout ce qu'il y a de plus domestiqué. Mais il a fait.
Alors qu'en Asie, il était mastiqué.
Oh non ! Oh, non !
Tu te rends compte qu'on n'avait pas de montage à faire jusqu'à maintenant ?
Non !
Et toi, tu débarques avec ton racisme primaire.
Je valide cette blague. Et en fait, il est redevenu sauvage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de marronnage. Je ne connaissais pas du tout.
Okay.
Donc le marronnage, en fait, c'est des animaux qui, au bout d'un moment, se disent « Yolo !» et retournent à l'état sauvage.
Je me casse, moi, salut.
Absolument. Donc c'est le cas, par exemple, du pigeon. qui à la base est un animal d'élevage.
Et il a fait la guerre, il s'est dit moi je me casse.
À Paris, il est tout ce qui est plus sauvage, le pigeon. Mmh. Voilà. Et donc d'ailleurs, ce marronnage, en fait, il va poser un petit problème en Australie lorsque le dingo redevient sauvage. Je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que vous savez pourquoi le diable de Tasmanie s'appelle le diable de Tasmanie ?
Parce qu'il fout le sbeul.
Non, c'est pas le côté diable qui nous intéresse, c'est le côté Tasmanie.
Parce qu'il vient de Tasmanie ?
Non, c'est pas parce qu'il vient,
il a mis le bazar en Tasmanie.
Non, c'est parce qu'on en trouve qu'en Tasmanie. Pourquoi est-ce qu'on en trouve plus en Australie ? Parce que le dingo a tout bouffé.
Ah, le dingo a tout bouffé.
C'est le dingo a tout bouffé.
C'est les dingos qui ont bouffé.
Absolument, il a éteint le diable de Tasmanie. Donc avant, c'était le diable d'Australie.
Mais c'est des chiens, ça chasse que les balles de tennis ?
Bah non, le diable aussi.
Non, mais il y a aussi une autre histoire avec ça. Ils sont en train d'essayer de tuer quelques animaux.
Non, c'est les Looney Tunes.
Non, mais vraiment, en Australie, ils essayent d'exterminer une race parce que ça tue d'autres races.
Ah oui, bah c'est fort possible. Mais l'équilibre... Mais je crois que c'est... Enfin, ce genre d'île, ça fait des...
Les chats. Ils sont en train de tuer tous les chats en Australie.
Confond avec la Nouvelle-Zélande, je pense.
Tu me fais peur, là.
C'est pareil.
Non mais oui, j'ai vu qu'en Australie effectivement ils étaient en train de buter plein de chats là-bas. Voilà. Oui, mais ça je suis d'accord.
En fait sur les îles, que ce soit l'Australie ou Nouvelle-Zélande, le chat c'est un prédateur ultime en fait.
Qui tue tous les oiseaux.
Bah à mon avis c'est pas un prédateur du dingo hein, les gars. Tu mets deux dingos à Sydney et le problème il est réglé. Il y a
dingo,
plus un
chat. Je sais pas, mais le chat c'est vraiment quand tu vas en Nouvelle-Zélande, il y a quoi? Il y a des moutons. Enfin il y a pas de prédateur à proprement parler.
Oui non mais je veux dire, t'as déjà vu un chat exsanguer un mouton quand même?
Ou ça pourrait, un chat très énervé.
Le tien, oui, mais...
En tout cas, je pense, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on digresse.
Oui, c'est vrai.
Oui, tout à fait. Donc du coup, voilà, vous voyez, il a carrément éteint le diable de Tasmanie en Australie, quoi. Donc il vit en couple, en petite bande, hein, notre dingo. Il n'est jamais en très grosse meute. Et puis bah, pour vous raconter l'histoire de sa vie, en fait, c'est un petit peu chiant, quoi. Il a une vie assez pépouse, hein, qui est faite de reproduction, de promenade sur la plage. Il vit pas très loin de la mer en général. Bah, enfin, il y en a dans les terres, mais
c'est clairement
voilà.
Comme ça que je vois ma retraite. Écoute, promenade sur la plage, un peu de...
De reproduction.
Voilà.
Il dort un petit peu dans les hautes herbes, comme ça, au soleil, et il chasse, il se nourrit. Voilà.
Bah, c'est cool ça, tu vas au supermarché.
Ce qu'on appelle donc un animal.
Tout à fait. Et donc, on va justement parler un petit peu de ses habitudes alimentaires.
De reproduction.
Non, alimentaire, bah, la reproduction, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, il se reproduit quoi.
Il sègue.
Il fait l'amour en dinguette. Voilà.
Oui, voilà, tout à fait. Et voilà. Donc, non, en fait, c'est l'un des prédateurs les plus féroces d'Australie, hein, en concurrence directe avec les requins et les crocodiles. Et c'est le plus grand prédateur terrestre d'Australie.
Non.
Le plus grand en nombre ou en taille ?
En dangerosité.
Bah ouais, je pense que c'est en dangerosité, ouais, tout simplement. Bah en nombre aussi, ils sont archi nombreux les dingos en Australie. Hein. Il y en a plein. Mmh. Juste sur la petite île où j'étais, il paraît qu'il y en avait plus de 300.
Mais ça me dégoûte comme pays. Genre, il y a des araignées et tout. J'essaie d'imaginer tous les prédateurs qu'il y a.
Elle est en train de parler de petits chiens mignons.
Mais ouais, j'allais dire en quoi ça te dégoûte. Premier, c'est super chaud.
Qui est le premier prédateur terrestre.
Et donc je vais pas vous surprendre très longtemps. Hein. Il est carnivore. Hein. Donc, il bouffe tout le truc. Il mange les rongeurs, les oiseaux, mais également les kangourous, les dromadaires, les chevaux, les reptiles.
Les dromadaires.
Oui, il y a aussi des dromadaires en Australie d'ailleurs. Mais,
donc, c'est la putain de hyène d'Australie.
Oui, bah, c'est le ratel australien, moi, je trouve. Hein, voilà. Et donc, bien sûr, si la proie est un peu fat, ils se mettent à plusieurs pour la chasser. Et comment est-ce qu'ils chassent ? Eh ben, en fait, ils courent sur plusieurs kilomètres et puis bah, ils épuisent tout simplement l'animal. Il attend que l'animal devant
vraiment le hyène,
meurt. Voilà, meurt.
C'est marathonien.
Exactement. Donc, il a une petite vitesse qui est sympa. Hein. En moyenne, quand il court, c'est 40 km/h.
Oh,
il peut monter à 65 km/h. Oh, calme.
Non, mais c'est une blague, sérieux ?
Bah, apparemment, oui.
C'est énorme.
Mais j'ai trouvé cette source-là sur plusieurs sites. Donc, au début, ça m'a surpris. Mais après, je me suis dit, ça m'a l'air quand même assez.
Non, mais c'est quand il prend sa Twingo, ça. Enfin...
c'est moins rapide que le Concorde, mais bon.
Bah, oui, c'est moins rapide que le Concorde. Voilà. Et le dingo en Australie, en fait, il a vraiment une réputation de merde. Il n'est pas du tout aimé par les locaux, étant donné qu'il a la réputation d'être un mangeur d'enfants.
Ah.
Oui, voilà. Ah, là, c'est la partie un peu moins fun. Donc, en fait, il suffit que vous googlisiez un de ces quatre attaques dingo vous allez trouver tout un tas d'articles, dont certains super récents. Donc, ouais, il y en a plein, même des très récents, qui mentionnent des touristes ou des locaux hein, blessés, et voire même parfois tués par des dingos.
Voilà, t'en as croisé ?
Des dingos ?
Ouais,
j'en ai vu un.
Ouais.
Ouais, trop beau, tellement
gentil.
Mignon. Bah non, en fait, il marchait vers nous. Au début, on était un groupe, on n'était pas trop sûrs. Et non, mais en fait, il y avait tout simplement un truc sympa qui s'appelait un véhicule, qui fait que le dingo.
Il a eu peur.
Bah non, c'est pas ça, il est resté derrière la vitre, quoi. Donc, au bout d'un moment, il était pas loin, mais il était trop beau, il était assis avec sa petite queue, puis il nous regardait.
Oh, voilà.
Une
boîte de conserve.
Il était posé sur la plage, et puis il nous a regardé au camion, c'est très beau. Donc, oui, voilà, il y a plein de... il y a plein de faits divers d'attaques de dingo. Et d'ailleurs, en fait, le dingo, il est au cœur d'un énorme fait divers australien. Donc, en fait, en 1980, il y a une mère de famille qui est partie faire du camping avec sa famille et qui a perdu son nourrisson de 9 semaines, je crois, sa fille.
Quelque chose me dit qu'il ne l'a pas élevé. Hein.
Et comment ça
bah,
c'est pas Mowgli, non,
ouais, non.
Et donc, elle, quand elle est allée faire sa déclaration à la police, elle a dit, bah moi, écoutez, j'ai vu un dingo partir, en fait, quand j'ai commencé à chercher mon enfant. Et je sais pas si le dingo avait mon enfant, mais elle, en fait, elle a été condamnée à perpétuité pour meurtre.
Non, sa fille. C'est horrible.
Si. Et c'est quelques années plus tard qu'on va retrouver des morceaux de vêtements du bébé juste à côté d'un terrier de dingo. Ouais, et c'est seulement 32 ans, je crois, plus tard. Ouais, c'est ça, en 2012, donc 32 ans plus tard, que là, elle est acquittée. Et qu'il a été reconnu que l'enfant avait été bouffé par un dingo.
C'est bon, on est bien passé de trucs mignons à saloperie, quoi.
Ouais, oui, 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 là, c'est officiellement une saloperie.
Ils veulent pas bouffer des backpackers à la place.
Et bah, si, si, parce que justement, en mars, il y a une touriste française et son fils qui ont été sur l'île où j'étais, qui ont été attaqués par une meute de dingo. Voilà.
Ah, c'est
horrible. Il y a une Australienne aussi qui a été attaquée pendant sa pause déjeuner par 3 dingos. Voilà. Il y a eu une attaque là, en avril, bah, toujours sur la même île, là où j'étais, un bébé de 14 mois qui s'est fait choper le bras par un dingo et tiré par un dingo, et le père est allé foutre
branler
au dingo. Voilà. D'ailleurs, c'est souvent les enfants, hein, les victimes. Et donc, pour éviter ces attaques, eh bien, il y a des chaleureux et des charmants panneaux qui sont disposés comme ça un petit peu partout sur l'île. Donc, il y a écrit en gros « Be dingo safe
voilà. ». Quoi ?«
Be dingo safe ».
Ah, voilà. Ok.
Et on a tout un tas de conseils. Donc, ne mangez pas de sandwich à la viande sur l'île, pour pas attirer les dingos. Voilà. Surveillez vos enfants, et j'aime bien parce qu'ils précisent, même les adolescents. Donc, voilà.
Surtout les adolescents.
Eux aussi méritent de vivre. Et surtout, si un dingo vous attaque, moi j'adore, le conseil qu'on vous donne, c'est défoncez-lui la tronche.
Non.
Si, 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 c'est vraiment defend yourself aggressively.
En même temps, ouais.
Et Brigitte Bardot n'approuve pas du tout ce panneau, mais j'adore. Enfin, moi j'avais jamais vu un panneau où on t'incite vraiment à dézinguer la gueule d'un animal sauvage.
C'est vrai que si t'essayes de le semer, c'est mal barré, quoi.
Non, mais tu sais, en général, c'est restez calme. Ne faites pas de mouvements brusques. Ne lui tournez pas le dos. Là, c'est juste, tu lui maraves sa gueule et on n'en parle plus.
Jetez-lui du poivre.
Jetez-lui du poivre. Sortez votre pchit. Voilà. Et le côté super sympa de cette panneau, de tous ces panneaux, en fait, c'est cette phrase qui est en bas, en rouge, en gras. Le dingo peut être plus proche que ce que vous croyez.
Un dingo peut en cacher un autre.
Donc, autant vous dire que moi, je guettais les lisières de forêt en marchant sur la plage. J'étais la bordel de merde. Voilà. Donc c'est super sympa. Et il y avait quelques villages, vraiment genre 2 ou 3 villages sur l'île. Et en fait, ces villages, du coup, qui sont en zone dingo, ils sont mais archi protégés. Donc, c'est-à-dire qu'on construit un mur, mais pire que le truc Israël-Palestine, tout autour du village, avec
vraiment
des portes.
Pire. Vraiment,
ah, oui,
sûr que c'est pire. Vraiment.
Non, mais...
Sachant qu'en ce moment, c'est pas la fête, mais bon.
Oh, bah, ça fait un moment, malheureusement, que ce n'est pas la fête.
C'est vrai.
Et donc, avec des portes où il y a écrit en gros sur la porte, si vous franchissez cette porte, refermez la putain de porte. Et pour les véhicules.
Terrain
en fait...
de Cisjordanie, quoi. Qu'est-ce que c'est ça?
Et pour les véhicules, du coup, en fait, eh bien, le véhicule roule sur une grille. Comme ça, bah, déjà, le dingo, il peut pas passer sur la grille. Et en plus de ça. Par-dessus la grille, il y a des câbles électriques en fait sur lesquels on roule. Comme ça, si jamais le dingo il veut passer, bzzz, on lui.
Vous ratez tous les mimes de Camille qui sont magnifiques.
C'est vrai. On lui grille le museau. Et donc, on en arrive à la minute Donald Trump de mon sujet.
Si on faisait un grand mur autour de Sydney.
Et ben, c'est à peu près ça. Je voudrais vous parler de la grande barrière à dingo d'Australie.
Oh non.
Étant donné que. Alors.
Est-ce qu'elle va être payée par les dingos?
Mais elle existe déjà, en fait. Donc, en 1884, donc là, on remonte à il y a fort longtemps,
Hein,
le gouvernement australien, il décide de construire une immense barrière à lapins. Parce qu'il y a un problème, il y a un problème d'invasion de lapins. Ils sont au nord, les lapins.
Ce pays est magnifique.
Mais j'adore ce pays. Ils ont été importés par les colons anglais, probablement, il n'y a que des anglais pour ramener des lapins. Et donc, ils ont ramené tout un tas de lapins, ils les ont mis au nord, et le problème, c'est que les lapins descendaient vers le sud, et puis ils désinguaient les salades des gens qui vivent au sud, quoi, en gros.
Putain, Gangs of New York, mes versions.
Voilà. Ouais, et donc, du coup, on fait une grosse barrière à lapins, voilà, qui s'étend sur plusieurs centaines, puis rapidement sur plusieurs milliers de kilomètres. Quand même. Et c'est un échec, les lapins continuent à passer. Donc on s'est dit un an plus tard, en 1885, on va transformer ça en barrière à dingo, les gars.
Ouais,
parce que le dingo aussi posait problème. Voilà. Et lui, c'était pas les salades qu'il mangeait, donc c'était plus problème.
C'était les enfants, quoi.
Voilà. Et donc, elle existe encore, cette barrière. Voilà, donc elle s'appelle tout simplement la barrière à dingo. Et c'est la plus longue clôture du monde, étant donné qu'elle mesure 5320 km de long.
Non.
Eh oui.
5000 bornes.
Voilà, donc elle va...
Il n'y a pas de Bigfoot Gate, là, on est d'accord. 5000 bornes.
Oui, oui, ça... non, non, 5000 kilomètres. 5320 kilomètres.
Elle fait quelle hauteur?
Alors, j'y viens.
Ah.
Donc, elle va du milieu de la côte est jusqu'au milieu de la côte sud.
J'aime bien quand tu mimes.
Oui, je sais, mais voilà. Donc voilà. Et elle permet notamment de protéger, en fait, Sydney, Canberra, et Melbourne et Adélaïde aussi, je crois que c'est dedans. Enfin, voilà, quoi, les grosses villes, en fait. Hein.
Okay.
Et donc, c'est pas une petite clôturette. Elle mesure 1m80 de haut. Et elle s'enfonce à 30 cm dans le sol. Comme ça, le dingo, même s'il gratte, faut qu'il gratte profond, quoi. Voilà. Et puis, pour maintenir la clôture, en fait, tous les 9 mètres, il y a un poteau en acier.
Tous les 9 mètres sur 5 bornes.
C'est
vrai, les mimes de Camille sont de plus en plus gênants.
Oui, pardon. Voilà. Et donc, il y a des portes, en fait, qui permettent aux véhicules de franchir la clôture. Mais c'est des portes, en fait, avec le même système de grillage et puis, aujourd'hui, plus récemment, de câbles électriques au sol. Donc, t'es sûr que les dingos, comme ça, ils ne passent pas. Ils ne viennent pas.
Non, mais c'est l'ennemi public numéro 1, c'est ouf.
Ah, mais c'est hallucinant.
En fait, quand on pense Australie, on pense genre Migal, enfin, comme truc dangereux, genre Migal, crocodile et tout. Mais en fait, c'est les dingos, le problème.
Bah oui, enfin...
Un des problèmes, je pense.
Ça va,
ouais. Mais non, en fait, les animaux, c'est pas tant un problème que ça quand il y est. C'est l'image qu'on en a en Europe, mais moi, sur place, et pourtant, je suis une flippée... Enfin, vous me connaissez, je suis quand même un petit peu une fragile. Bah en fait, ça va, j'ai dormi sur mes deux oreilles et j'ai pas trop flippé en marchant dans la rue.
On va pas développer sur des vacances de quelques semaines. Je pense qu'on invitera une personne...
Oui, 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 qui est restée un an, je pense, ou deux ans, et qui a rencontré des...
Un dingo.
Bah oui, ou des animaux pas cool. Donc voilà, donc cette barrière, elle est entretenue en fait toute l'année par plusieurs dizaines de personnes qui habitent juste à côté, en fait, qui ont des petites maisons le long de la barrière.
Et donc leur taf, c'est de s'occuper de la barrière.
À l'année, voilà, ils sont payés par le gouvernement pour entretenir la barrière à dingo. Et cette barrière, son entretien coûte un peu plus $1 million par an. Et c'est financé par une taxe annuelle.
C'est pas si cher. Pour une barrière de 5000 bornes, non, c'est pas si cher.
Non, mais en fait, si vous...
On parlait à Vinci.
Non, mais si vous regardez, elle est pas en béton. Hein. C'est du grillage. Non, mais c'est du grillage. C'est du grillage assez serré, mais c'est du grillage, quoi. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un genre de taxe qui est prise dans la taxe d'habitation, en fait, dans les taxes locales sur les terres. Mais je crois que ça coûte que dalle, en fait. Ils prélèvent aux Australiens 2,2 cents par hectare. De terre. Enfin...
Et puis c'est ça où se faire bouffer ses gosses, alors bon.
on est bien d'accord. Le choix est vite fait. Et donc le nom du bureau du gouvernement qui s'occupe de l'entretien de cette clôture, c'est le Wild Dog Destruction Board. Donc voilà, le bureau de lutte contre la prolifération du dingo.
Ouais, il y avait des destructions quand même, c'est un peu plus fort que lutte.
Oui, c'est vrai. Voilà.
C'est lutte ouvrière, c'est pas destruction ouvrière. Quoi.
Mais par contre, il y a un vrai souci avec le dingo, c'est qu'en fait, l'animal est tout simplement en train de totalement disparaître.
Ah bah oui, il lui marave sa gueule. Oui.
Voilà, d'une part parce qu'effectivement, les locaux lui maravent un petit peu la gueule avec des systèmes de poison. Il y a également de la chasse en fait au dingo qui, je crois, je vous avoue que j'ai pas trop regardé, mais il me semble
ouverte
que c'est
toute l'année.
C'est pas tout à fait légal, mais ça fonctionne plutôt bien off. Mais la peau de dingo, apparemment, c'est pas mal. Voilà, tu peux faire des trucs sympas avec, paraît-il, mais je ne valide pas du tout. Le problème, en fait, c'est que 90% des dingos qu'on voit aujourd'hui en Australie sont croisés. C'est plus il se reproduit avec des chiens.
J'ai cru que t'allais faire une blague de Templier ou un truc comme ça.
Non.
Je pensais pas à ça.
Exactement. Ils marchent en direction de Jérusalem.
Ils ont des rubis dans le sac.
Mais non, en fait, ils se reproduisent avec, tu vois, admettons, t'as un berger allemand dans ton jardin, t'as un dago qui va venir et qui va se reproduire avec ton berger allemand dans ton jardin.
Ouais, donc il y a plus de. Enfin, c'est plus dur de trouver des races pures.
Bah, il y en a pas énormément. Pure. Alors, je sais que là où il y a le plus d'attaques sur l'île de Fraser Island, là ils sont apparemment ils sont quasiment tous purs parce que c'est sur une île. Mmh. Donc déjà il y a pas de.
Oui, à moins qu'on mette ton chien Starken.
Ouais, voilà, il doit y avoir 40 habitants sur l'île, donc à mon avis ils ont pas de chien, c'est 40 habitants et voilà, le problème est réglé. Mais du coup, le dingo, c'est peut-être un animal que nous on connaîtra plus en fait à cause des croisements. Voilà.
Et si on lui apprenait à manger autre chose que des enfants.
Bah non, mais il paraît qu'il y a eu des retentatives de domestiquer le dingo, mais que c'est un petit peu chaud patate.
Ok, bon.
Voilà.
Bah écoute, je suis partagé sur ce sujet parce que, il était très bien, mais d'un côté, je trouve ça trop mignon, et d'un autre côté, bon, ça mange des chocs quand même. Enfin, je suis dit, non, est-ce que c'est mignon, est-ce que c'est pas
mais
mignon.
Surtout qu'il bouffe pas l'homme pour se nourrir.
Laisse n'importe quel clébard dans la forêt pendant 6 mois, tu vois, s'il va pas gauler.
Surtout qu'il bouffe pas l'homme pour se nourrir, en fait.
Pour le kiff.
Ouais, dans des documentaires, ils expliquaient qu'en gros... Non, c'est juste parce qu'il a tout à fait capté que nous, on bouffe à peu près les mêmes choses que lui. Et donc, en fait, c'est pour éviter la concurrence qu'il boufferait l'homme.
Alors, faut avouer qu'ils sont... comment dire ?
Parce qu'en fait, on est son seul prédateur, donc c'est pour nous c'est du défensif directement, c'est pour être le maître
de
guerre.
En fait, ils étaient là depuis bien longtemps avant nous. Bon, on a niqué les dinosaures, Bon, bah, il reste plus qu'à niquer les hommes.
Très loin, là.
On est les rois du monde. Mais très chouette, en tout cas. Je me laisse quelques jours pour me faire mon avis sur le dingo. Mais,
oui, mais je t'en prie.
C'est quand même extrêmement mignon. Et sur ce, malheureusement, si je n'ai pas bêtis, ça va mettre fin à ce
épisode. Écoute, il faut bien un moment.
Mais en tout cas, c'était un plaisir de revenir au micro, revenir dans vos petites oreilles. Enfin, des grandes oreilles, ça marche aussi.
Revenir dans vos oreilles.
Mais c'était quand même un plaisir. Dans tous les cas, à partir de maintenant, on va revenir toutes les deux semaines avec, en toute logique, on va essayer de mettre ça bien. Mais pour les prochains épisodes, avoir des invités qui vont nous rejoindre, avoir, si tout va bien également, une petite annonce pour un événement qui arrivera d'ici la fin de l'année. Et puis, dans tous les cas, il y a aussi le Paris Podcast Festival qui va avoir lieu
mi-octobre.
Ouais, mi-octobre, où on y sera pour faire un tour, voir des gens, etc. Donc, si vous voulez nous croiser, ça sera l'occasion.
Et il y a la saison du Mont d'Or là, qui est en train de rouvrir.
Ah oui, aussi. Voilà, si vous voulez faire une raclette, n'hésitez pas. On a fait un Ask Us Anything, demandez-nous ce que vous voulez. Sur Instagram, on essaiera d'en refaire de temps en temps si vous voulez. Voilà, il y en a qui nous ont demandé s'ils pouvaient être nos amis. On veut toujours boire des bières. Nous, si vous voulez être nos copains, envoyez-nous du fromage et des bières. Voilà.
De la concoyotte.
Sur ce, on vous embrasse, on vous fait des bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.
À très bientôt.
Des bisous.
Ciao, ciao. Allez, donnez-nous 5 étoiles.
Salut, qu'est-ce qu'on fout ?
Mais dis-tu une connerie ?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire. Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.